Mais j'aime genre ça.
Ah putain, là, tu vois, là je commence déjà à me détendre, tu vois.
On se fait donc, de l'ASMR pendant toute mouche.
Je suis Lisa Martel et je vais vous parler d'ASMR. Je prends votre front, je le masse délicatement.
Ça marche bien, je vais m'endormir.
J'arrive à vos oreilles.
Bienvenue dans la vignette.
Bienvenue dans la vignette. De... à Saint-Denis, Denis.
Tu fais les effets de delay à la boue ?
Bien sûr.
La vignette, le meilleur podcast BD de l'univers.
Enfin, selon nous.
Waouh ! Bienvenue sur La Vignette, qui est toujours le meilleur podcast bande dessinée de l'univers, selon nous.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Premièrement, parce que demain, on va à Angoulême.
Oui.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est passé depuis belle lurette. Mais nous, on va à Angoulême pour la première fois. T'y es déjà allé, toi, Aurélien ?
Eh ben non.
On est content ?
C'est fou, quand même. On est vieux. On n'est jamais allé.
Ouais, c'est vrai, on est vieux.
C'est bizarre.
On se lève très tôt pour ça.
Ouais.
Et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, on reçoit une légende qui plus est vivante de la bande dessinée.
Vivotante.
Une vivotante, une révolutionnaire qui a cassé les codes de l'industrie.
Ouais, j'ai tout cassé.
On reçoit Lisa Mandel et on est très content. Bravo.
Bravo.
Applaudis avec nous, Lisa, sinon c'est faible. Bravo! Alors, première question, qu'est-ce que ça fait d'être une légende?
Bah, je la prends ce soir, donc laissez-moi le temps de m'y faire. En plus, vous me déconcentrez à fond là parce que vous avez dit au revoir à quelqu'un d'autre derrière la vitre.
On dit au revoir à Monsieur Poulpe.
Ça bien, fait plaisir, Poulpe. On a l'impression qu'on est intéressant.
Ce qu'il y a, Monsieur Poulpe est dans les locaux de la société Nakima. Monsieur Poulpe, je te présente Lisa Mandel.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis un grand fan, j'adore tout ce qui est l'univers des Schtroumpfs.
Merci, mais.
Tiens,
non, en vrai, non, je
on se connaît,
fan. Oui, on s'est déjà vu.
Bien sûr. Que ton visage m'est familier.
Merci.
Alors, tu peux passer par là-bas.
Ouais,
si
parce
tu veux.
Que j'étais enfermé.
Ouais, à bientôt. Au revoir, Monsieur Poulpe.
Au revoir.
Au revoir, bonne émission,
merci,
bonne vignette.
Salut.
Au revoir, Lisa.
Au revoir. Ça, ça va être dans la vignette.
Ouais. Ça pas te dérange pas ?
Pas du tout.
Si tu veux appeler deux, trois potes, c'est le moment.
J'ai rien à gâcher.
Ouais, donc, légende, non, ça te convient pas ?
Bah, c'est pas ça, c'est
pour
que...
Pour te faire plaisir aussi. Hein.
Oui, mais j'ai bien senti que c'était un peu lèche-cul. Hein, mais
c'est notre style, faut le savoir.
Non, mais ça me... Non, une légende, je pense que c'est galvaudé.
T'as une page Wikipédia, c'est déjà pas mal. Et très fournie.
Ça fait très longtemps. Hein.
Ah bah donc c'est bien ce que je dis, une légende.
D'ailleurs, je me demande si c'est pas ma belle-sœur qui me l'avait mis au début, ma page Wikipédia.
Waouh, allez.
Mais ouais, bah oui, bah on est quand même nombreux et nombreuses à l'avoir, hein, la page. Bah une légende, non, bah disons qu'après 20... Ouais, j'ai presque 20 ans de carrière, donc forcément, je suis plus connue qu'au début.
Oui.
Après, attendons ma mort pour dire que je suis une légende.
Très bien. Est-ce que ça te ferait plaisir que Aurélien nous rappelle le concept de cette émission ?
Qui change absolument à chaque émission.
Ouais, c'est vrai.
Oh bah, c'est vous qui.
Tu peux dire non, hein. T'as le droit.
Ouais, on le fera quand même, mais c'est chiant. Ouais.
Non, vas-y, je suis très curieuse de savoir.
Alors, bah, la vignette, c'est très simple. C'est un podcast où on donne la parole à un auteur ou une autrice de raconter sa passion de la bande dessinée et sa vie en bande dessinée avec trois jalons, trois chapitres qu'elle a choisis qui peuvent représenter trois moments importants de sa vie en bande dessinée et de sa passion pour la bande dessinée et quand ça a changé.
C'est pas mal, hein, c'est encore différent et c'est pas mal.
Alors, j'aime mieux cette version-là que la tienne, hein, parce que là, ça se tient.
Moi, je t'ai tapé le concept, donc c'était plus court.
Mais non, mais c'est surtout que c'était genre trois BD. Alors que là, on est sur trois chapitres de... Pour moi, on est sur trois chapitres de ma vie où la bande dessinée a eu un rôle où ça... qui ont fait basculer ma vie.
Voilà.
Et là, tout de suite, c'est...
Ça change tout.
Ouais. C'est...
Bon, bah, super.
Ouais. Je pense que tu devrais diriger cette émission.
Bah non, mais on dirige... Il n'y a pas de dirigeant, hein, on est en... On
ah,
est
c'est
en
le communisme.
Après, je rappelle quand même que c'est mon matériel, donc je vais.
C'est vrai. On peut faire une émission, mais elle sera pas enregistrée. Mais...
Ça s'appelle un apéro.
Voilà, ça peut
avec
être sympa
de
aussi.
De l'eau fraîche. Bon, bah bref, sous ces belles gentillesses à mon égard, Lisa.
Moi, je plaisante bien
je
sûr.
Je sais bien. Oh, on a bien senti.
Oh, vous bien sentez senti. Quand même que c'est pour rigoler.
Est-ce que tu peux nous parler de cette première BD que tu as choisi d'évoquer ?
Alors. Donc, comme je disais.
Ça a été très simple comme exercice pour toi d'ailleurs, on peut le dire.
Ça a été affreux.
Ouais.
Parce que j'arrivais. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je trouve que les BD qui ont le plus changé ma vie, c'est forcément les BD ben, que j'ai lus plus jeune parce que c'était des découvertes. Et que, en vieillissant, non pas que j'apprécie moins la BD parce que je lis toujours des BD que j'adore, mais je peux pas dire. Ah, cette BD-là, il y a eu un avant et un après. Voilà, je le dis, mais parce que aussi, peut-être on se blase un peu en vieillissant, mais aussi parce que quand on est jeune, ben, on connaît rien, donc on découvre des trucs, ça fait des espèces de claques intellectuelles et affectives. Et puis après, ben, on retrouve pas forcément ça facilement. Alors voilà, donc c'était l'intro. La première BD, pour être tout à fait honnête, la première BD dont moi je me rappelle parce qu'elle m'a beaucoup marquée, en fait, c'est une BD que j'ai lue avant de savoir lire et qui était une BD qui appartenait à la coloc de mon père. Et qui, ouais, il était en couple avec ma belle-mère et il avait une coloc. Donc moi j'avais genre, je sais pas, 4 ans, quoi. 5 ans, et j'ai trouvé une BD dans la chambre de cette coloc qui s'appelait Marie-Claire, qui s'appelle toujours Marie-Claire. Et c'était Mafalda, tome 1.
Pas mal.
Et moi, je savais pas lire. Hein. Donc j'ai pris la BD, j'ai cru très longtemps que j'avais réussi à lui voler, qu'elle s'en était jamais rendue compte, alors qu'en fait, bon, elle me l'a juste laissée, évidemment. Et là, j'ai commencé à m'inventer les histoires, parce que je comprenais rien. Déjà, Mafalda, même quand on sait lire, on comprend rien pendant longtemps.
Oui, c'est vrai.
Et donc,
c'est
moi, vrai, j'ai ces 4 cases-là, je me suis raconté 1 milliard d'histoires avec ces cases. J'ai rajouté des sourires à tous les endroits où Kino mettait pas de sourire, parce que quand les personnages sont interloqués, ils ont plus de bouche. Donc moi, je ne comprenais pas. Donc en fait, toute la BD, je l'ai toujours regardée, cette BD, parce qu'elle me fait rire. On voit tous les visages, tous les personnages. Dès qu'il n'y a pas de bouche, je rajoute une bouche avec l'émotion qui était censée être représentée dans la bulle. Et j'étais persuadée que c'était le dessinateur qui les avait oubliés, quoi. Je ne me suis pas dit à un seul moment, bah non, c'est fait exprès, quoi, c'est un exercice de style. Et ça, j'ai l'impression que pour moi, ça a été un des moments où j'ai eu un rapport ultra affectif avec un objet. C'est devenu une sorte de doudou. Je me racontais vraiment 1 milliard d'histoires avec. Et donc, cette BD-là, en fait, elle m'a accompagnée pendant toute ma vie. Puisque, à un moment donné, même, je suis allée en Argentine parce qu'il y avait Kino qui était argentin, quoi. Je m'étais dit, tiens, où je pourrais aller? J'ai qu'à aller vivre un peu à Buenos Aires, puisqu'il y a Kino qui a fait Mafalda, qui est de là-bas. Enfin, ça a motivé même des choix de vie. Et
tu l'as rencontré, Kino?
Eh ben, en fait, je l'ai rencontré une fois et j'étais avec Boulet. On était des jeunes auteurs. Uh-huh. Et en fait, lui, il a eu le culot d'aller lui demander une dédicace. Uh-huh. Et moi, j'ai pas osé. Et en fait, maintenant, il a une petite Mafalda originale et pas moi. Et je me dis, mais j'ai vraiment été trop bête. Et voilà, donc je l'ai croisé, mais j'ai pas osé lui parler. J'étais toute jeune, je venais à peine de commencer ma carrière, j'avais 26 ans, quoi. Et donc j'ai pas osé aller lui parler. Et donc cette BD-là, disons, je m'en rappelle parce que je me rappelle que je la lisais sans savoir lire. Et après, il y a eu toutes les autres BD que j'ai lues très rapidement, parce que moi, mon premier argent de poche, il est parti pour m'acheter une BD qui s'appelait d'ailleurs Oumpapa contre Foi Malade.
Ah, Oumpapa.
De Goscinny et Uderzo, qui est leur série sur l'Amérique avant les cow-boys, hein, l'Amérique vraiment qui vient à peine d'être découverte, entre gros guillemets, parce que bon, c'est un terme très colonialiste, qui vient d'être envahie par les Français, les Anglais, tout ça. Ouais. Donc Oumpapa, un grand et jeune indien d'une force hors norme et
sans potion magique.
Sans pulsion magique, et très ami avec un jeune français un peu gringalé, en mode Fantasio un peu. Ouais. Et voilà, et donc moi je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, c'était même pas le tome 1 ni rien, donc c'était ma première BD que j'ai acheté avec mes sous. Et ensuite j'ai acheté, après il y a eu les Schtroumpfs, ensuite j'ai eu les BD qu'on m'offrait, puis les abonnements, voilà.
Tu sentais que c'était ton truc, la BD, à ce moment-là?
Ouais, j'ai eu tout de suite un rapport hyper fusionnel et affectif avec la BD. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce médium. Peut-être parce que la télé, c'était limité. Puis à l'époque, c'était les années 80, il n'y avait pas autant de trucs qu'aujourd'hui. Donc il y a un moment où la BD, pour moi, c'était un refuge. C'est-à-dire que je pouvais déjà les lire 55 fois d'affilée. Et c'était devenu, les personnages de BD, pour moi, ils avaient une vie. Et d'ailleurs, je lisais beaucoup aussi Picsou. Enfin, je lisais tout. Hein. Et Picsou et Mickey et tout ça, en fait, je me suis rendu compte que ça développe un espèce de méta-univers avec des personnages qu'on retrouve tout le temps pendant des années. Et moi, j'avais une impression de réalité. J'avais vraiment l'impression que je partais dans un autre monde, que j'allais les rejoindre, que je les connaissais et surtout qu'ils existaient dans la vraie vie. Et le jour où j'ai réalisé que c'était pas vrai, c'est le jour où j'ai parlé à une copine de classe de Gontran Bonheur, donc un des personnages de Picsou.
Le cousin de Donald.
Le cousin de chanceux de Donald.
Un horrible type.
Oui, et qu'elle m'a dit, je sais pas c'est quoi ce personnage. Et là, j'ai réalisé que ce que moi je connaissais, donc qui pour moi existait puisque je le connaissais, n'existait pas pour la personne qui ne le connaissait pas. Et d'un coup, il y a toute une conception du monde qui a vrillé ce jour-là, où je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui existait pour moi n'existait pas forcément pour les autres.
Sensation cool ou uncool?
Non, un peu vertigineuse.
Ah, t'avais quel âge là?
J'avais peut-être
35 ans,
7 ans. Non, je dois avoir quand même 7 ans, quoi. 6-7 ans.
C'est jeune, c'est
ah
correct.
Oui, j'avais pas 19 ans. Hein. Bah oui, parce qu'en plus, pour penser ça, quand même, faut pas être non plus...
Avoir des conceptions sur la réalité ou pas, c'est jeune.
Oui, c'est que la réalité est relative et que finalement, ce qui est vrai pour nous, c'est vrai. Alors que c'est pas vrai, c'est vrai pour nous. Voilà, tout ce concept philosophique, il est né à cause de Gontran Bonheur.
Pourquoi Gontran Bonheur, c'est ton personnage préféré?
Mais pas du tout, c'est qu'en fait, on parlait de Donald, ouais. Et elle connaît... Mais Gontran Bonheur, c'est quand même un personnage secondaire et annexe de Donald.
Qu'on voit que dans les mondes dessinés.
Oui, et puis qu'on connaît pas très bien, ouais. Si on n'est pas, c'est comme Mystique, des personnages comme ça.
C'est vrai.
Si on ne lit pas les BD de Picsou, ce qui est quand même le cas de 99% des enfants de ma génération, ils l'ont tous lu, mais si on ne lit pas, on sait pas qui c'est. On sait qui c'est Donald, les trois petits, enfin, Riri, Fifi, Loulou, et puis Picsou. Ouais. Mais, on sait pas qui c'est Gripsou. Enfin, il y a plein d'autres personnages annexes, Patibulaire et tout ça, on les connaît pas forcément. Je pourrais faire toute la liste, hein, mais je vais pas le faire.
On peut le faire. T'étais en amour avec la bande dessinée.
J'étais en amour avec la bande dessinée. Et en plus, mes parents, ma mère comme mon père, avaient des BD aussi pour adultes, que je lisais en cachette.
Ah. Quand tu veux dire pour adultes, c'est celles qui sont dans les rayons pour adultes?
Bah, genre Riser, Wolinski. Mon père, il avait beaucoup de Métal Hurlant, il avait Manara, il y avait Comès, mais c'était des BD que j'étais pas trop autorisée à lire, entre guillemets. Ils m'ont jamais non plus séquestré pour pas que je le fasse. Mais que je lisais. Et surtout Métal Hurlant. J'ai eu réalisé très tôt que la BD, c'était pas que Lucky Luke, Gaston Lagaffe et Astérix. Ouais. C'était aussi noir, sombre, enfin, effrayant. Il y avait aussi Liberator que je lisais comme ça en me cachant à moitié des yeux.
C'est clair. Rock Xerox.
Alors, Xero, je lisais, j'étais moitié horrifiée par ce que je lisais, mais je pouvais pas m'empêcher d'aller regarder. Il y avait aussi ce livre, quand même, assez porno de Martin Véron, qui est L'amour propre, reste jamais très longtemps.
C'est Bernard Lhermitte, c'est ça?
Sauf que L'amour propre ne le reste jamais très longtemps, c'est vraiment un porno. Enfin, dans le sens où on voit toutes les scènes, c'est explicite, et on voit des scènes de copulation. Enfin, on le voit vraiment, et je crois que c'est la première BD, c'est la première fois que j'ai vu des vrais rapports sexuels, entre guillemets, dans cette BD, parce que c'est très réaliste.
On parle jamais assez de Martin Véron,
c'est vrai.
Bah, moi, je peux vous dire que cette BD, je l'ai beaucoup lue.
Excellent dessinateur.
Très, pour le coup, très années 80 au niveau du style, mais très bon coup de crayon. Et voilà, moi j'ai grandi du coup aussi avec cette notion que aussi il n'y avait pas que le joli dessin.
Ouais.
Qu'il y avait aussi une partie de ces dessinateurs qui avaient un dessin plutôt presse et qui s'étaient mis à faire de la BD, qui venait plutôt de la presse. Mais ça n'avait pas percuté C'est-à-dire que pour moi, faire de la BD, ça restait quand même faire du Astérix.
Ouais.
Mais quand même, je baignais aussi dans une culture BD alternative qui me racontait autre chose. Et je pense que ça, plus tard, ça m'a aidé.
Ouais. D'avoir tout de suite les deux mondes.
Oui,
quoi.
Et puis j'ai créé un imaginaire graphique. Qui malgré tout a été influencé par Bret Eicher, par Wolinski, par Reiser. Même si moi, en fait, je voulais, mon rêve le plus suprême, c'était de dessiner Schtroumpf parfaitement.
C'était ça ton rêve suprême?
Ah ben moi, je rêvais de savoir, je voulais devenir autrice de bande dessinée. Donc je regardais Gaston Lagaffe, dessinateur. Ah ouais, depuis que j'ai 4 ans, j'ai toujours voulu faire ça.
C'est vrai. Direct bam.
À direct 4 ans, dessinatrice de BD. Première BD, La Fée des Dents, je sais pas pourquoi ils nous avaient appris ça, alors que c'est pas du tout la culture française, à la maternelle. Et on voit, j'ai fait plusieurs cases avec une petite fille qui perd des dents, qui sont évidemment deux fois sa tête, avec une fée, machin. Et c'était ma première BD, je pense. Et après, avec mon frère, on dessinait énormément. Et donc, on faisait, par exemple, quand il y a eu Rocky 4, j'ai des cahiers entiers de juste Rocky qui met un pain à notre boxeur et qui se reprend un pain. Puis il y a de plus en plus de sang dans l'image et c'est comme une espèce de dessin animé. Donc, c'est déjà de l'image séquentielle quand même.
Ouais.
Et on faisait, on dessinait beaucoup ensemble aussi. On faisait des immenses dessins sur des papier raisin, où on faisait des combats, des attaques de... Souvent, c'était les Américains contre les Japonais, enfin, qui dataient des westerns de la dernière séance de Eddie Mitchell, où on voyait des trucs surannés, avec des conflits, enfin, franchement, entre les Japonais et les Américains. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, oh là là... c'est à l'ancien, mais c'est pas non plus les années 60. Hein. Et on faisait ça, on faisait des attaques de bateaux pirates, et c'était donc des immenses dessins. Donc, on avait déjà un univers assez riche. On imaginait plein d'histoires ensemble et moi je sais que j'ai très vite utilisé la BD comme moyen d'expression et surtout comme objectif de vie, quoi, je me disais. Et puis alors avec tout le monde qui te dit genre ça n'existe pas pour les gens, en fait ça n'existait pas, auteur de BD c'était un métier qui n'existait pas, c'était genre il y avait des gens mais c'était, il y en avait très peu, mais j'ai jamais été contrariée dans cette envie, mais voilà, moi pour moi c'était le dessin. Alors après mes parents se disaient, je pense, bah elle fera autre chose, elle veut faire de la BD mais en fait elle fera un truc dans le dessin, mais donc c'est un... moi toute ma vie j'avais cette espèce d'objectif en face.
Incroyable.
Ça s'appelle une... Ouais, je me suis dit, bah oui, c'est peut-être ce qu'on appelle la vocation. Mais après, moi, je ne saurais même pas dire pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois, je n'ai pas envie, moi, de dessiner. Et puis, je me suis souvent demandé, mais peut-être ce n'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Qu'est-ce qui m'a pris? Et ça ne s'est pas posé comme un choix. Ça a été une espèce d'évidence. Et d'ailleurs, j'ai longtemps cru que c'était pour tout le monde pareil. Genre, les gens se réveillaient un matin, puis ils avaient la petite graine de « je veux être dentiste ». Non, mais je me disais tous les métiers. C'était, qu'en fait, pour tout le monde, c'était comme si la fée, bah, pour le coup, c'est vraiment la fée sur le berceau, qui sait pour tu seras, voilà, tu seras chauffeur routier, tu seras professeur de français. Et pour moi, j'avais la petite fée qui s'était penchée et qui avait dit que je ferais de la BD. Voilà.
Et autour de toi, on dit quoi? Bien sûr.
Bah, en fait, mes parents...
On t'inscrit à des cours de dessin?
Oui. Alors à partir de du CM2, je prends des cours de dessin, mais c'était une méthode japonaise. Et enfin, en gros, je dessinais des chiens. Je prenais des copies des photos de chiens que je dessinais au fusain. Et je faisais des peintures à l'huile. Donc ça n'avait rien à voir avec la BD, mais alors j'adorais, parce que ça avait un côté très contemplatif. Mais c'était pas du tout de la BD, parce qu'il n'y avait pas de cours de BD. Moi, j'habitais en plus en zone périurbaine, donc il n'y avait pas de cours de BD.
C'est quelle zone périurbaine?
De Marseille.
Ok.
J'habitais au fin fond du 11e, qui à l'époque était quand même vraiment, et encore un peu loin, il y avait un bus par heure, c'est vraiment loin. Et chez mon père, j'y allais, petite, j'habitais en ville, mais après j'étais petite, et quand je suis devenue plus grande, j'étais quand même, bref, il n'y avait pas de cours, de toute façon, il n'y avait pas de cours de BD autour de moi. Hein. Et donc, j'avais pris ces cours-là parce que c'était ce qui était disponible. Et après, par contre, dès 15 ans, je suis rentrée en art appliqué. C'est un autre nom maintenant que j'ai encore oublié parce que ça a beaucoup changé.
15 ans, c'est-à-dire
En seconde, quoi. Ouais, je suis rentrée dans les.
Un bac option en dessin.
Ouais, j'ai pris art appliqué, quoi. Ouais, un bac art appliqué technique où on a 20 heures d'activité liée à l'art appliqué.
Mais tu faisais des petites BD quand tu étais enfant?
Je faisais de la BD. Ouais, j'ai fait des BD, mais je finissais jamais parce que c'est tellement long. Alors, je commençais des espèces de BD avec des gags en une page qui ressemblaient fortement aux schtroumpfs, mais c'était pas les schtroumpfs. C'était genre les schroupifs. Ils habitaient dans des vieilles chaussures, ils étaient tout petits. Et je me disais pas, tiens, ça ressemble quand même vachement au schtroumpf.
Mais c'est bien, c'est hyper bien.
Et après, j'ai arrêté au bout de 3 pages parce que c'était trop long, puis que je savais pas comment on faisait. Alors après, j'avais voulu me faire offrir du matériel aussi. Mais comme mes parents, ils connaissaient pas, ils m'avaient offert du matériel, mais c'était pas vraiment le matériel qu'on utilise.
C'était quoi?
Alors mon oncle, je crois, m'avait dit, il faut des rotrings. Alors j'avais demandé des rotrings.
C'est très précis.
Bah oui, parce que il m'avait offert des rotrings, mais stylo plume.
Ah.
Qui sont pas du tout. Alors du coup, je dessinais avec, mais ça bavait avec dès qu'on mettait de l'eau. Enfin, parce qu'on me disait, c'est à l'eau. Alors j'essayais de me renseigner sur comment on faisait. Puis à l'époque, il y avait pas internet, il y avait rien. Donc en fait, je savais pas. Donc je faisais, voilà, comme ça, je dessinais. Puis après, voilà, quand je suis rentrée aux arts déco, au lycée, là, j'ai un peu plus compris ce que c'était. Et surtout à l'époque, qui était quand même pas si lointaine, on m'a vite fait comprendre que moi, c'était pas la BD pour moi, c'était l'illustration jeunesse.
Oh, parce que t'es une femme?
C'est pas dit comme ça, mais parce que je savais pas faire des guerrières au gros sein, j'étais un peu nulle en perspective.
C'est catin.
Mais c'était l'époque, c'était pas encore, l'association n'était pas encore arrivée jusqu'à Marseille, hein. Il venait à peine d'exister.
On brûle les étapes.
Voilà, donc en fait, moi, quand je suis arrivée au lycée art appliqué, l'idée c'était, je voulais toujours faire de la BD, mais j'avais un peu compris que ce serait peut-être pas. J'avais, parce qu'à l'époque-là, moi, j'étais fan de Loisel, Torgal.
Ouais.
J'aimais bien les trucs super réalistes. J'étais toujours branchée sur les... Bon, je relisais toujours Astérix, hein, mais j'étais un peu sur des trucs foulous. Je me rappelle une série avec... et des trucs super réalistes. Et je pensais que c'était ça, faire de la BD. Alors que j'avais bien vu chez mes parents qu'il a existé autre chose. Hein,
Mafalda, déjà.
Oui, Mafalda, mais même, comme je disais, Bretéché, Olinsky, Mais pour moi, ce que devait être la belle BD, c'était ça.
Ouais.
Et donc, mon dessin n'a jamais correspondu à ce délire-là. Donc,
T'as essayé quand même un moment?
Ah oui, bah, j'ai essayé. Ah bah, bien sûr. Alors, j'arrivais à faire une case. Après, il fallait qu'il y ait de la perspective. Alors, j'y arrivais plus.
Ouais.
Non, parce que moi, mon truc, en fait, c'était en gestation encore, parce que j'étais très contrariée dans mon style, moi.
Mais est-ce que tu essayais de recopier Torgal, par exemple?
Non, pas du tout. J'essayais d'inventer. Hein. Moi, je voulais inventer. Alors, j'ai inventé un truc genre le pays des trois lunes de Xruxblux. Jonathan, parce que je changeais le nom, genre Jonathan X, regarde le cratère et pense, la vie est-elle. Parce que j'avais les eaux de Mortelune. Voilà. En fait, lisais des trucs hyper dramatiques, de post-apocalyptiques, hyper réalistes. J'adorais les bourgeons, enfin, j'étais vraiment dans ces délires-là. Et j'adorais toujours aussi le reste, hein, mais voilà, pour moi, la BD, c'était ça. Et du coup, je voyais bien que j'étais bien loin d'accéder à ce niveau, d'ailleurs que je n'ai jamais. J'ai jamais atteint.
T'as pas cherché à l'atteindre?
Mais non, mais parce que j'y arrivais pas. C'était juste pas du tout fait pour moi. Puis c'était pas mon univers. Mais par contre, en jeunesse, les profs trouvaient que je me débrouillais bien. Mais on était au lycée encore. Hein. Donc, moi, j'adorais sur le taref à l'époque. Puis c'est vrai que ça me faisait rire. En fait, j'aimais déjà les trucs marrants. Mais je faisais des BD dans les marges. C'est-à-dire que je faisais des petites BD sur mes copines et moi. Des petites BD. Quand il y avait eu un sujet BD, j'avais une super bonne note. Parce qu'en fait, je pense que j'avais déjà ce truc d'aimer raconter des histoires séquencées. Donc, je me débrouillais, je pense, à l'époque déjà. Parce que j'avais lu tellement de BD. Et ça me plaisait vachement. Mais je voyais pas que c'était une force. Je voyais pas que c'était ça, ma force. Moi, je voyais surtout que je dessinais pas du tout. Et pourtant, j'étais super bonne élève. Hein. Je me débrouillais en tout. J'ai une super bonne note au bac. Mais
combien on peut savoir?
J'ai failli. Non, je peux pas le savoir, mais j'ai eu une bonne note.
t'as honte de ta bonne note?
Non, parce que ça fait genre. J'ai eu 15,8 de manière générale.
Ce qui s'appelle une bonne note.
Quand je suis arrivée, les profs étaient déçus. Ils ont dit, t'as raté la mention très bien de 0,2.
Ouais, c'est ce que je me suis dit. Hein.
Voilà, et donc je me suis dit, putain, j'ai raté. Au lieu de me dire, c'était génial, je me suis dit, à cause que j'avais foiré le bac français en première.
C'est une autre histoire.
Mais voilà, donc j'étais bonne, mais néanmoins, pas suffisamment pour ce truc-là de la BD. Puis il y avait d'autres élèves qui étaient super bons en BD, de ce que moi je trouvais bien. Et du coup, je suis arrivée, ben, j'ai présenté les Arts Déco de Strasbourg pour après faire de l'illustration jeunesse. Puisque, alors,
on a une question qu'on adore.
Allez.
Est-ce que tu dessinais bien ?
Oui.
T'étais la meilleure de ta classe ?
Ben, ça dépendait en quoi.
Quand t'étais au collège.
Ouais, j'étais. Oui, mais j'étais pas hyper bonne non plus. C'est-à-dire, j'étais pas un génie du dessin. Il y avait d'autres gens que je connaissais qui étaient vraiment des génies du dessin par rapport à moi. Moi, j'avais le truc que je dessinais tout le temps. Ouais. Donc, forcément, oui, je dessinais quand même bien. Puis je dessinais un peu BD rigolo, quoi. Et, mais oui, les gens trouvaient que je dessinais bien. On me demandait parfois de dessiner un truc. J'avais fait un stage en entreprise en troisième. C'est moi qui avais fait les pins de l'entreprise.
Waouh, c'est cool. Ça.
J'ai dessiné hyper bien les baskets. Donc je dessinais toute seule. Hein. Fallait pas qu'il y ait un pied. Juste la basket avec les lacets.
Attends, j'aimerais. Parce que dans tous les angles ou pas ? Ou
c'est non, profil. Un angle et puis un angle années 80. Quoi. Mm. Donc, et voilà, donc je dessinais bien les baskets. Mais oui, je dessinais plutôt bien ouais, quand même.
Ça t'énervait les autres qui dessinaient genre mieux que toi ?
Non, j'ai toujours. J'étais hyper fan. C'est-à-dire que j'étais pas jalouse, j'étais admirative. Ouais. Autant en classe, je pouvais être jalouse des autres qui avaient une meilleure note que moi en maths ou je sais pas quoi. Enfin, le maths encore pas, mais mais autant en dessin, c'était plutôt que ça me... J'étais c'est très exalté, respectueuse, en fait, du talent des autres. Et moi, j'avais vraiment une passe, parce qu'au départ, avant d'être dessinatrice, moi, c'est surtout que j'étais vraiment... Je vouais un culte à la bande dessinée et au dessin. C'est-à-dire, je trouvais ça magnifique. Quand j'allais chez des gens, je me rappelle, j'allais chez des amis à mes parents qui avaient une espèce de peinture originale à l'aquarelle que je trouvais extraordinaire. Je pouvais rester devant et dire, j'arriverai jamais à faire un truc comme ça. J'avais un vrai bonheur à avoir des beaux dessins. Enfin, beaux selon mes références, sachant que je viens pas d'une famille qui est spécialement intello et artiste. Donc, c'était mes goûts de moi, ce que je trouvais qui était bien dessiné, quoi. Mais... Donc je respectais beaucoup, si je voyais quelqu'un qui dessinait ultra bien, j'étais en folie quoi. Mais ça m'arrivait pas non plus tous les quatre matins, plutôt quand je suis arrivée en technique, où là d'un coup dans ma classe il y a eu des gens, j'étais là, waouh, ouais, alors j'essayais de faire comme eux, puis j'arrivais pas du tout, qui dessinaient super bien, de mon point de vue quoi.
Tu t'entraînais ou pour les atteindre ou tu disais non mais c'est pas mon truc?
Bah en fait j'ai quand même toujours un petit fond feignasse, je m'entraînais et quand je voyais que j'allais pas y arriver, j'arrêtais. Et je continuais de dessiner mes trucs. En fait, moi, je répondais du coup au projet scolaire. Hein, donc, je faisais tous les trucs. Et il y avait plein de trucs différents. Il y avait art plastique. La BD, c'était un mini truc dans tout ce qu'on devait faire. Donc, moi, je faisais tout le reste. Et puis, j'essayais de répondre le mieux possible aux... J'avais un peu l'esprit de compète. Donc, j'aimais bien être bonne. Puis, j'ai toujours beaucoup aimé les challenges, moi. Donc, mais j'allais que là où j'étais bonne. C'est-à-dire, les challenges, je savais que j'allais être tout pourri, je les faisais pas. Donc, j'aimais bien être bonne. Puis, ça m'intéressait, l'école. C'est pas que pour être bonne, hein, c'est que ça m'intéressait.
C'est le pot. Ça t'intéressait, toi, l'école, Aurélien ?
Pas trop, hein.
Mais
ça dépend quelle matière, en fait. Je veux bien l'histoire, moi.
Oui, mais en plus, les arts appliqués, les lycées arts appliqués, tous les gens qui ont fait arts appliqués, ils vous le diront, c'est 3 années de bonheur.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas du tout comme faire une classe normale, parce qu'on a 20 heures dans la journée, 20 heures dans la semaine, où on est tous ensemble sur des grandes tables à discuter. On peut même, enfin moi à l'époque, on pouvait même mettre de la musique,
ouais,
à faire que du dessin, des trucs qui nous plaisent, en parlant entre nous, avec une ambiance ultra cool. Ça a fait une scolarité fantastique, quoi.
Ouais.
Moi j'ai adoré, mais après c'est parce que j'ai été dans une section géniale. Je pense que j'aurais été dans un lycée normal. Au collège, j'aimais bien le collège, mais j'étais pas non plus, j'allais pas le matin en disant génial, je vais me taper.
T'allais au lycée à fleur au fusil, quoi.
Ah mais le lycée, c'était j'adorais.
Mais tu faisais quoi concrètement en cours de dessin ?
Bah je sais pas, ça dépendait des sujets. Il y avait par exemple dessiner le design de nouvelles combinaisons de ski. Moi, ça n'a pas été ma meilleure expérience. Mais donc on dessinait à un moment donné, on faisait du design graphique. Après, il fallait faire des trucs un peu plus artistiques, genre découper plein de trucs et puis faire une espèce de puzzle créatif. Ça pouvait être faire de l'archi. Alors, j'étais très nulle faire de l'archi, donc dessiner.
T'adorais quand même.
J'adorais l'ambiance. Mais ouais, et puis c'était quand même génial, quoi. Des fois, on faisait de l'illustration jeunesse, des fois, on faisait un peu de BD, parfois. Enfin, en fait, on a touché à tout, quoi. On faisait de la sérigraphie, on a fait. Il n'y avait pas encore d'ordi, hein, vraiment, dans les lycées, donc on a fait des trucs plutôt manuels, mais j'aimais tout. Même quand j'aimais pas, j'aimais quand même 1 milliard de fois mieux que des cours de physique, de sciences physiques, quoi.
Bien entendu.
Ça, c'est.
C'est-à-dire même le pire cours.
Tout est mieux que la physique.
Voilà. Même le pire cours d'art appliqué était 40 fois mieux qu'un cours de sciences physiques ou de trucs que j'avais pas envie de faire ou de techno.
Tu te tenais au courant quand même des sorties BD à cette époque-là ?
Bien sûr, j'étais à fond. Il y avait une.
T'étais abonné à des Spirou ?
Alors non, Spirou non. Nous, on a été abonnés, bah là, au lycée. Alors, il faudrait que retourne un peu en arrière. Ma mère nous avait abonné à Mickey et on était abonné à Pif.
Ah, Pif.
Et du coup, et puis moi, je lis, j'ai acheté beaucoup Rahan, fils des âges farouches. J'étais hyper fan de Rahan. Et puis,
L'épisode où il meurt ?
La mort de Rahan ?
Ouais.
Mais il meurt pas vraiment, en fait.
Je sais pas, parce que moi, j'ai pas lu la suite et je suis convaincu qu'il est mort.
Non, on croit qu'il est mort, mais il est pas mort. Il y a un moment, il se fait. Mais je les ai tous bazardés il y a pas longtemps d'ailleurs. Je sais pas.
Il y a peu de temps là.
Ouais. J'ai dit trop. J'ai trop de BD. Donc j'ai décidé de me débarrasser. Je me suis débarrassée aussi des Torgal, qui étaient quand même des BD qui m'accompagnaient depuis mes 11 ans.
Mais tu les as, quand tu dis bazardés, tu les as vendus?
Je les ai posés dans la rue.
Sérieux?
Oui, mais en fait,
tu sais que je suis en train de me faire chier à racheter tous les Torgal. Je suis dégoûtée d'entendre ça.
Bah oui, mais je les ai posés dans la rue et une heure après, ils étaient plus. Et moi, j'adore parce que du coup, je sais que les gens qui les ont ramassés, c'est vraiment des gens qu'on voulait et je préférais ça que les laisser dans
Ça se trouve, je suis en train de racheter tes BD à un type qui les a trouvés dans la rue et qui les a mis sur le bon coin. C'est ça la vérité.
Ah, c'est possible. Sauf que c'était à Marseille, ça m'étonnerait quand même. Mais oui, j'ai tout bazardé. Bah ouais, parce que j'ai passé trop de temps sans les relire. En fait, j'ai l'impression que les BD qu'on a aimés enfant, ça va si on les relit tous les ans. Mais si on passe 3-4 ans sans les relire, voire 5 ans, comme j'ai fait avec Torgal, quand j'ai voulu relire, j'avais perdu j'avais perdu le mojo, la magie, tu vois. Et du coup, j'ai vu pour ce que c'était. Et il y a quand même Bah non, il y a des trucs vachement bien, mais c'est quand même daté, c'est quand même assez sexiste. Ça a vieilli, quoi. Et moi, j'ai
bien évolué quand même.
Ouais,
début,
mais alors,
c'est nul.
Alors,
les trois premiers sont un peu nuls.
Le PIK, il y a eu toute l'époque du PIK qui était génial, moi je trouve. Hein. Ouais. Et ensuite, ça retombe aussi. C'est-à-dire que ça se redégrade à la fin.
C'est le problème de Van Damme, quoi. Il fait un peu durer, comme 13 ou même Largo Winch. Il y a toujours un moment où tu.
Ouais, mais toutes les séries, c'est comme ça. Hein. Si on n'arrive pas à s'arrêter, ça descend en qualité, c'est obligé. Ouais. Mais il y a eu une période Torgal, toute la période où ils sont en Amérique du Sud, là, et où ils découvrent son grand-père, qui est. En fait, c'est extraterrestre. Enfin, c'est depuis le début, mais tout ce truc-là, moi, je
avec
le trouve.
Sa main en or, et en fait, il y a un pistolet dedans, là.
Bah, je trouve ça hyper bien, même encore maintenant, mais j'ai vrai, mais maintenant que. En plus, c'était il y a genre 15 jours que je les ai bazardés.
Ouais, ça me dégoûte.
Ça faisait
dégoûte.
Depuis que je les avais depuis que j'avais 12 ans, quoi. Ah, le premier, je l'ai acheté dans un supermarché à Saint-sur-les-Lacs, et c'était.
Ça vaut des ronds, en plus, des vieux Torgal.
C'était au-delà des ombres, je crois que c'est ça.
Ah ouais, je me rappelle de celui-là.
Et celui-là, alors, c'est un tome 12, genre, et je l'ai ouvert, et j'ai eu une pareille révélation. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire extraordinaire? J'ai pleuré.
Mais c'est trop bien, Torgal.
C'est trop bien. Oui, mais voilà, là, je l'ai lâché. J'ai trouvé que je les relisais plus.
Tu les rachèteras, j'en suis convaincu.
Peut-être. Mais j'ai trouvé que je les avais. Je les relisais plus. Et qu'à partir du moment où je les relisais plus, c'était la mort cérébrale d'un livre, de le laisser dans une bibliothèque et de jamais le relire.
Et moi, j'aime bien. Il y a plein de BD que je relis jamais. Mais juste de les effleurer comme ça du bout du doigt et de me dire, un jour, je te relirai. Et ça me fait plaisir.
Ouais, bah, je sais pas. Là, d'un coup, En fait, j'étais dans un appartement moins grand, puis j'avais plus de place et j'en pouvais plus toutes ces BD là. Ça m'a.
J'ai eu
un coup de sang. J'ai eu un coup de sang, j'avoue. Bah, je les rachèterai après tout. Hein, voilà, c'est pas grave. Ce sera pas les miennes que j'avais, mais.
Mais ça veut dire que tu lis tes BD tous les ans?
Non, j'ai arrêté. Je faisais ça avant et je le fais plus depuis longtemps. Non, avant, je relisais par exemple Torgal. Si j'ai racheté un Torgal, je relisais tous les autres. Je me tapais sur deux jours, moi, c'est une grosse soirée. Je relisais tous les Torgal et ensuite le dernier. C'est aussi ça, c'est que j'ai arrêté d'acheter dernier Torgal parce que je les ai trouvés pas bons, je sais pas, j'étais plus dedans. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai arrêté de relire tous mes Torgal du début à la fin.
Gâché.
Les yeux de Tanat Locke et tout. Non,
génial.
Ah ouais, c'était grand moment.
Est-ce que t'es en train de regretter de les avoir laissés sur le trottoir?
Bah, un peu là quand on en parle, mais en même temps, je sais que si je les relis. Parce que j'ai essayé, je retrouverai pas ce truc que j'avais chaque année à les relire. Et c'était trop triste. Donc voilà. Mais donc, ça fait déjà beaucoup de BD cités pour juste une première période de ma vie.
Et alors, ce qui est fou, c'est qu'on a toujours pas cité la première.
Vas-y, c'est Mafalda.
Oui, mais tu sais pas celle que tu m'as dit.
Non, parce qu'en fait, c'est l'autre, c'est la deuxième.
Les Amandelles nous tend des pièges à notre édito. Bon, c'est pas très grave.
Oui, parce qu'après, j'ai réfléchi, je me suis dit, la vraie première BD qui m'a fait un truc, c'était Mafalda. Bah, après, la deuxième, c'était quand j'étais encore au lycée. Et j'ai fait deux choix qui ont été motivés par des goûts personnels. C'est-à-dire que.
C'était c'est l'objet de.
Oui, parce que les autres, quand j'achetais Loisel, c'était aussi les discussions avec les autres élèves, c'était ce qu'il fallait acheter.
Loisel, il revient souvent comme premier
star.
Peter Pan et tout, moi j'adorais.
Alors, oui, mais c'est comme des espèces de premiers choix qu'on a avec un désaveu assez rapidement.
Non, moi je n'ai pas de désaveu, c'est que c'était des choix de mode aussi. C'était la mode. Au début des années 90, c'était Bilal, alors on lisait Bilal, on lisait. Et là, un jour, je vais. Donc, un magasin de BD qui est mythique mais qui maintenant ne vend plus que des vins bio qui s'appelait La Passerelle, qui était avant le Marsupilami, l'Ombre de Saino, enfin il y a eu plein de noms, qui était un magasin de BD qui faisait à la fois café, restaurant, BD, import de manga. À l'époque il n'y avait pas de trad, hein, donc et c'était un truc, et ils vendaient d'ailleurs les premières BD, des livres du Dernier Cri à Marseille et tout. Et ce magasin de BD, je m'en étais pas rendu compte, mais était un trésor de variété. Et moi, en allant là pour acheter mon Torgal ou mon je sais pas quoi, je suis tombée sur, il y a deux BD comme ça que j'ai choisi en me disant, oh, ça a l'air d'être de la merde mais j'aime trop, je vais quand même l'acheter. C'était Black Hole de Burns. Non, attendez.
Dégueulasse, pas du tout.
Imaginez-vous que j'avais aucune culture BD, moi. En fait, j'arrivais, et puis personne m'avait dit que ça c'était bien. Donc c'était un choix, et plus tard, je me suis dit, là, Lisa, contrairement à Oumpapa contre Foi Malade, tu as fait preuve de bon goût, sans le savoir. En plus, j'ouvrais le truc, je fais, c'est un peu glauque, puis genre, ça a l'air un peu nul, moi, je vais quand même l'acheter. Genre, voilà, le deuxième, mais là, par contre, j'ai pas eu l'impression d'avoir acheté de la merde, c'était Mouse.
Que tu veux me citer comme première BD.
Voilà, donc Mouse d'Art Spiegelman, je dois dire que quand je l'ai lu.
Quel âge t'avais à ce moment-là?
Je me demande si c'était 16 ans, 17 ans, je pense, un truc comme ça. Mais je me demande même si j'étais pas déjà majeure. Non, mais je pense que c'était au lycée. Et là, cette BD-là, grosse claque. Grosse claque, pour le coup, c'est vraiment une icône, cette BD.
Pas ouf pour moi, mais ok. Non, je plaisante.
Non. Non, mais cette BD.
Impossible de trouver quelqu'un qui trouve ça nul.
Bah oui, parce que je peux pas après m'étaler sur. Je pense que je suis pas la première à parler de Mouse.
Si, je crois.
Du coup, je vais dire la vérité. Si je devais faire la vignette comme invité, j'aurais choisi Mouse aussi dans mes trois BD.
Ah ouais?
Ouais. Je m'étais dit, à chaque fois que j'aurais une des trois BD que j'aurais choisi, je le dirais.
Mouse, parce que. Pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est la première fois que je voyais de la BD documentaire. Ouais. Enfin, de la BD du réel, je connaissais pas. Et puis en plus, c'était vraiment un pionnier, parce qu'avant que ça devienne à la mode, il a fallu attendre encore 10-15 ans. Ouais. Parce que le sujet, m'intéressait aussi, me touchait, parce que c'est le sujet de la Shoah. En fait, depuis que j'étais petite, me passionnait sans que je comprenne pourquoi, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, la famille de mon père était juive, mais qu'on nous l'a c'était caché. Mais
à cause de la guerre?
Oui, enfin, qu'il y avait eu un secret de famille autour du judaïsme, alors que j'ai un nom juif, donc j'aurais pu m'en douter. Ma mère me l'avait dit, mais j'avais pas percuté. Mais j'avais cette fascination pour l'Holocauste, pour la Shoah, mais qui était devenue, mais depuis que je suis petite, où je lisais tout ce qu'il y avait, puis j'avais un truc qui me travaillait, je comprenais pas. Et donc, en ce livre aussi, le sujet m'a touchée. Et ensuite, que ce soit sous la forme de la BD, qui était mon doudou. Moi, la BD, c'était ce que je préférais lire dans la vie. Et donc, il y a eu un espèce d'effet combo où la BD m'a retourné la tête. Parce qu'aussi, la façon dont c'était raconté, on avait l'impression d'être avec lui, quoi. Il y avait ce truc-là de proximité qui est créé par la BD. Je pense que c'est l'objet BD. C'est un objet intime, on le lit, on est proche, c'est du dessin, donc ça fait qu'on baisse la garde et on est prêt à accepter des émotions hyper fortes, parce qu'on s'est laissé aller, parce que c'était des personnages, c'est des souris, et voilà, et alors ça, j'ai adoré, et c'est devenu pour moi une référence, évidemment, pendant des années, donc je dois dire que cette BD, ça a été un choc émotionnel, même un choc esthétique, parce que c'était aussi raconté avec beaucoup de simplicité. Donc c'était aussi montrer qu'on peut raconter des choses extrêmement complexes avec un dessin qui est assez simple. Voilà, cette BD, je vais dire, c'est aussi une des trois. Il y en aura plus que trois, mais voilà.
Une des huit.
Non, celle-ci, la Mouse, je pense que c'est une BD qui a été fondatrice aussi pour moi, puisque plus tard, je me suis mise à faire beaucoup de BD documentaires et que quelque part, je pense que ça...
Et le style graphique très éloigné de Torgal, il te marque aussi à ce moment-là?
Oui, bah c'est ça.
Des dessins plus petits, plus...
Après, comme je disais, moi, en fait, j'avais déjà eu accès à du dessin très différent de Torgal. Ouais. C'est juste que d'un coup, j'ai lu, parce que Razer, Walensky, tout ça, malgré tout, c'était pour moi, c'est la BD de mes parents. Ouais. C'était des délires, même les frustrés, j'ai beaucoup apprécié plus tard. Ouais. Mais quand j'avais 15 ans, pour moi, c'était des délires d'adultes. Alors que là, le sujet me parlait vachement. Et enfin, je pense que c'est ça. Oui, avec un dessin très simple, on était dans un sujet qui me passionnait et où j'avais pas l'impression que c'est de la BD à papa. Et oui, je pense que du coup, ça a ouvert aussi une porte, mais je pensais pas du tout. Et à l'époque, évidemment, et puis encore maintenant, j'étais loin d'être capable de faire la même chose. J'avais l'impression que j'arriverais jamais à faire un truc comme ça. De toute façon, j'avais pas le même vécu que Art Spiegelman, j'avais pas la même histoire à raconter. Mais ouais, ça m'a extrêmement marqué, cette BD. M'a bouleversé, quoi, je pense, on peut le dire.
Mais c'est bouleversant, on peut le dire.
Bah oui, bien sûr.
C'est... Prix Pulitzer, je crois, c'est la première.
Oui, c'est la seule BD qui a eu le prix Pulitzer.
C'est très souvent cité comme la seule BD. Quand les gens ils lisent des bouquins, ils disent ah oui, j'ai aussi lu une bande dessinée, c'est Mouse.
Ouais.
C'est le seul truc qui sort à chaque fois.
Ouais.
Est-ce qu'il a réussi à en faire d'autres après?
Bah oui, il a fait autre chose, mais. Alors il avait fait un livre illustré pour adultes, dont j'ai oublié le titre.
Moins bien, du coup, après.
C'est... Bah différent, quoi. Puis après, quand on a fait une BD pareille, c'est dur,
c'est dur de faire autre chose. Enfin, de changer. De style vraiment.
De se dépasser, de faire mieux que ça quand même, parce qu'il a un peu fait la BD de sa vie. Bon, il l'a fait jeune, c'est peut-être à mon avis son drame, mais après une BD comme ça, comment on peut faire quelque. Enfin,
ouais, c'est difficile.
C'était tellement à couper le souffle. Voilà, donc ça c'était ma première BD.
Et ton style graphique, il évolue en fonction de tes claques ou.
Non. Non, en fait, moi, malheureusement, j'ai l'impression que ma main est douée de sa propre intelligence et liberté, donc elle dessine comme elle veut. Et je n'ai aucune prise sur mon style graphique, c'est-à-dire qu'au final, je finis toujours par redessiner de la même manière. Et contrairement à des auteurs et des autrices que je connais qui ont une palette large graphique, moi, vraiment, je suis dans une mono... Enfin, mon style évolue avec le temps, puisque je change, mais c'est toujours à peu près quand même... Alors, des fois, ça va être plus noir, plus coloré, plus jeunesse, mais en gros, on reconnaît quand même mon dessin je pense, facilement. Et donc, mon style, bah là, il n'était pas du tout construit. Au lycée, j'avais un style tout pourri, hein, il faut le dire, ce qui n'était pas stable, qui était encore influencé par tout ce que j'essayais de recopier.
C'était quoi, du coup, que tu recopiais ?
Alors, par contre, j'ai toujours gardé ça. Les oreilles, c'était les schtroumpfs. Donc je fais... Et encore maintenant, je fais les oreilles comme les schtroumpfs, à peu près. Après, j'essaie de recopier bah, beaucoup les schtroumpfs. Hein. C'était un peu comme je voyais que c'était plus facile.
Et puis, c'est pas totalement vrai, d'ailleurs, puisque c'est assez dur, finalement.
Non, c'est très dur, parce que ce qui est très dur, c'est pas de dessiner un schtroumpf, c'est de dessiner 40 fois le même schtroumpf.
Ouais.
Et qu'il fasse soit. Parce qu'il y a une stabilité dans le style de Peyo, aussi parce qu'il y avait un studio derrière, un peu comme Tintin et tout ça. Moi, ce que j'admirais beaucoup, même chez Astérix, c'était la stabilité du style. En fait, ce que je trouvais fou en BD, d'ailleurs, que je n'ai jamais réussi à faire, c'est qu'un bonhomme, il a exactement la même tête d'une case à l'autre, juste qu'il change d'expression, mais qu'il soit comme ça, dans une stabilité graphique. Et d'ailleurs, moi, mes BD, mes personnages, ils sont jamais exactement la même tête, en vrai. Et j'ai renoncé, hein. Je me suis dit, bon, j'arriverai pas à faire des personnages stables. Mais je dois dire que c'était ça que j'avais l'impression que j'atteindrais pas aussi. Et je me suis dit, bah, du coup, je peux pas faire de BD, puisque j'arrive pas à faire deux fois le même bonhomme. Et en plus, je suis nulle en perspective. C'était quand même deux handicaps assez importants. Pour
faire une série.
Tu crois toujours à ce moment-là, quand tu découvres Maos, que tu vas faire de la BD ?
Non, je pense que je vais faire de l'illustration jeunesse. Enfin, moi, je voudrais
faire
de la BD.
C'est un peu genre le parent pauvre de la bande dessinée pour toi, l'illustration jeunesse, à ce moment-là ?
Pas du tout, c'est qu'on m'avait dit, en gros... Enfin, moi, j'avais compris que la BD, c'était pas pour moi. Que du coup...
Et tu penses que c'est vraiment lié à ton genre, à ce moment-là ?
Non, je pense pas. Mais après, je pense que si, quelque part, c'était les profs, je pense, c'est une fille, elle va faire de l'illustration jeunesse. Et puis les mecs, ils font des guerrières à gros seins, ils vont faire de la BD. Et au final, dans la classe, et puis dans les. Finalement, effectivement, il y en a quelques-uns qui ont fait de la BD. Mais c'est vrai que c'était encore très masculin. Il y avait très peu de femmes dans la BD. Il y avait Bretéché, il y avait Sestac, il y en avait quelques-unes d'autres. Mais c'était. Il y avait des femmes qui étaient. Il y avait peut-être déjà Jeanne Puchol et tout ça, mais qui n'étaient pas très connues. Mais dans les très connues, il y avait Sestac et. Il y avait Clavelou, enfin, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc les références qu'on avait, c'était vraiment que des hommes. Et je pense que du coup, oui, peut-être que j'avais intériorisé ça et que je m'étais dit, la BD, c'est un sport d'hommes. Je m'étais dit, je vais aller en illustration, mais je pense que je voulais toujours faire de la BD, que je me disais, je vais progresser. Et à un moment donné, je ferais peut-être de la BD, mais je ne sais plus ce que je me disais. J'étais déjà tellement contente d'avoir été prise dans cette école de dessin que finalement, la question ne se posait pas encore.
Est-ce que de ton côté, tu continuais à dessiner des histoires ou à raconter
bien sûr,
en bête dessinée ?
Ouais. En fait, moi, j'écrivais beaucoup. J'écrivais un journal intime, d'ailleurs, que j'ai tenu de 9 à 26 ans. Je pense que j'ai arrêté de le tenir quand j'ai sorti mes premières BD. Donc, j'écrivais beaucoup, moi. Et donc, de toute façon, j'écrivais beaucoup. Et j'écrivais des BD, mais comme je vous dis, c'était toujours pareil. Je faisais une page et après, parce que c'est un tel travail de faire une BD. Donc, j'en étais là. Et je racontais, comme je disais, des petites BD dans les marges avec où on imaginait des trucs avec mes copines, on faisait des blagues, voilà. Ouais. Mais ça restait très, très, très anecdotique et très en marge du reste, quoi. Et après, je suis rentrée aux arts déco et là ça a été la catastrophe. Je me rapproche du micro. Ça a été horrible parce que moi qui étais tellement compète, challenge, les notes, j'adorais la contrainte. En fait, moi qui suis quelqu'un de très dispersé, de très éparpillé, de très bordélique, dans ma tête moins, mais quand même, je veux dire, moi j'étais hyper bonne quand on me donnait des contraintes. Parce que j'étais tellement bordélique que dans la contrainte, je faisais juste un truc créatif sympa.
Ouais.
Mais si j'avais genre la liberté totale, alors là, je me perdais complètement. Et donc, j'arrive aux arts déco. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de contraintes, on n'est même pas obligé d'aller en cours. À l'époque, il n'y avait même pas encore les UV, donc on passait vraiment genre à la gueule du... On passait en n'ayant rien foutu de l'année. Et là, moi, mais ça a été la débandade, quoi. Ça a été la bérésina. Je suis devenue en plus très médiocre, alors que j'avais été quand même habituée à être plutôt considérée comme une bonne élève. Très mauvaise, pas très bonne. En plus, ces deux premières années aux Arts Déco, c'est du l'art contemporain. Enfin, c'est un peu tout. Il n'y a pas BD, il n'y a pas illustration vraiment. Les deux premières années, c'était un tronc commun où je me faisais chier. On me faisait dessiner des boules de papier froissé et tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Moi, je veux faire de la BD. En plus, il y avait un espèce de mépris quand même des illustrateurs, des auteurs de BD en herbe qu'on était de la part des autres qui faisaient du vrai art et des profs.
Ce que nous a raconté Boulet, effectivement.
Lui, on était dans la même classe avec Boulet.
Mais c'est pour ça, j'en profite.
Nous sommes du même. Lui, il est arrivé en troisième année. Moi, raté d'ailleurs les arts déco genre deux ou trois fois avant d'être pris.
Ouais.
Et moi je suis arrivée à 18 ans, mais donc on s'est retrouvés en troisième année dans la même classe, mais moi après j'ai redoublé. Hein. Quand je dis j'étais mauvaise, j'étais pas très bonne.
Mais comment on fait pour redoubler si on laisse passer tout le monde ?
Et parce qu'en fait j'étais partie en année Erasmus au Sénégal. Pour 7 mois, il m'avait dit, attends, non, là, t'es passé tout juste, si tu pars toute l'année, tu redoubles en revenant. Ce que je n'ai pas dit à mes parents. Et donc, je suis partie, quand je suis revenue, la copine avec qui j'étais partie, elle a été prise. Elle est passée en cinquième année.
Et tu faisais quoi au Sénégal, concrètement ?
Rien. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des Beaux-Arts hyper chelous.
C'est à Dakar, là ?
Ouais, à Dakar. Et puis après, on a plus été aux Beaux-Arts. Après, on n'a rien fait pendant 7 mois. Moi, non, je dessinais un petit peu.
Tu t'occupais un peu la journée, non ?
Non, on faisait plein de trucs. À 20 ans, on avait 21 ans. On a rencontré plein de gens. Moi, j'ai fait des voyages extraordinaires. On faisait des trucs, mais en fait, on n'allait pas à l'école, quoi. Et du coup, après, on habitait sur l'île de Gorée avec ma copine Sandra Poirot. Voilà. Donc on a vécu notre vie de... On a eu des amis qui sont venus nous voir. Je sais pas, moi j'ai fait plein de trucs. Hein. J'ai vraiment fait des expériences extraordinaires là-bas. Mais j'ai habité chez un ami sénégalais pendant des mois. Dans sa famille, il croyait qu'on était ensemble, mais on l'était pas. Mais enfin, c'était tout. Bon bref, c'était surréaliste. Mais et là, j'ai commencé à faire de la BD documentaire, mais avortée. C'est-à-dire, je me disais, tiens, je vais interviewer les gens. J'avais déjà cette envie de faire ça, mais il s'est rien passé. Enfin, j'ai rien fait en fait.
Ouais.
J'ai beaucoup glandé. Donc quand je suis revenue, j'ai redoublé.
Et tu stressais un peu de ton avenir professionnel dans cette période où...
Non, j'étais sûre...
T'arrives pas à aller au bout d'un projet ?
Ah bah non, j'étais sûre que j'allais y arriver. Je sais pas comment dire, j'avais plein d'incertitudes dans ma vie. Hein. Plein de choses qui étaient pas calées, plein d'angoisse. J'étais quelqu'un de quand même assez angoissé, assez insomniaque. Mais alors, j'étais sûre que j'allais y arriver. Et ça, c'est parce que je pense que j'ai une mère qui, là-dessus, en tout cas, a été hyper... J'ai intériorisé une confiance en moi. Elle m'a toujours dit, Lisa, de toute façon, ce qui compte, c'est d'avoir un métier, quel qu'il soit. Toi, t'as une passion et t'es volontaire et tout, tu vas y arriver. Elle avait une confiance en moi et en mes capacités qui était, mais une confiance aveugle. C'est-à-dire qu'elle était tellement sûre. Et moi, du coup, j'étais nourrie de ça. Et même dans les moments où, franchement, on aurait pu se poser la question, j'étais sûre. Et puis, pour le coup, j'étais pas très complexée, moi. C'est-à-dire que je dessinais pas hyper bien, mais alors j'en avais rien à foutre. Je savais que je dessinais pas hyper bien. Par rapport, je veux dire, à ce que je voyais des autres, j'avais un besoin de raconter des choses qui étaient tellement fort que je me disais, je vais y arriver. Et puis en plus, je voyais qu'il y avait de la merde qui sortait en BD. Moi, je voyais toutes les merdes. Je me disais, oh là...
Des noms, peut-être ?
Non, je peux pas donner de noms. Non, mais je voyais qu'il y avait de la merde.
On les bipera,
voilà. Ben, pip et pip et pip, pip. Non, mais et du coup, pour moi, j'ai jamais eu l'ambition de faire Mouse. C'est-à-dire que moi, je me disais pas, je dois devenir un génie de la BD et changer la face du monde avec mes BD, mais pas du tout. Moi, je me disais, je veux raconter des trucs, j'ai trop d'idées, faut que je raconte des trucs. La BD, c'est le plus accessible pour moi, mais ça aurait pas été la BD, j'aurais fait du théâtre, j'aurais fait du cinéma, je pense que j'aurais fait autre chose. Mais donc, pour moi, c'était juste la BD, c'était là, c'était accessible, j'avais qu'à utiliser la BD, mais j'avais pas d'exigence qualité. Et du coup, j'étais pas complexée, et quand on n'est pas complexée, c'est là où on produit le mieux, parce que finalement, et puis je disais toujours, d'ailleurs, je l'ai toujours dit toute ma carrière, j'ai dit, avec le nombre de merdes qui sortent, il y aura bien une place pour la mienne. Et donc, j'étais dans cette optique-là. Et donc, à ce moment-là, donc on va essayer de parler de ma deuxième BD quand même.
Ah, ça arrive maintenant.
C'est parfait, ça.
Parce que je parle, du coup, je vais parler de ma deuxième BD quand même. Parce que c'était pendant que j'étais étudiante, hein, on est toujours dans la chronologie.
Avant ou après le Sénégal ?
Après le Sénégal, je pense. Je redouble.
Ouais.
Comme une merde. C'était prévu. Et j'ai failli tripler. Mais là, quand ils m'ont dit, tu vas tripler, j'ai dit, je parle de l'école. Et ils ont fait, bon, donc tu vas juste redoubler.
C'est quoi cette pression ?
Mais parce que j'avais vraiment, je sais pas, il y en avait un, puis il me regardait comme si j'étais un peu, que j'avais des problèmes de retard mental, mais comme si j'étais il y avait un problème. J'ai dit, moi, si vous me faites tripler, je ne reviens plus à l'école. Ils m'ont dit, bon, on va juste te faire redoubler. Donc, en gros, j'ai fait comme une année blanche avant, finalement. J'ai intégré la quatrième année.
Okay.
Donc, j'arrive en quatrième année, alors que tous mes autres copains, ils sont passés en cinquième année. Et là, en quatrième année, entre la troisième et la quatrième année, je dis à ma mère que je redouble. Mais comme si je le savais pas avant, évidemment, parce que sinon elle m'aurait jamais laissé partir. Et là,
tu fais la surprise un peu ?
Non, je lui dis, mais je te promets que la cinquième année, je me la paierai moi-même. Parce que moi, mes parents sont pas riches, que c'était la seule à faire des études hors de Marseille, et qu'on était quand même 5 enfants, et que du coup, je me sentais mal. Donc, j'avais toujours travaillé en plus, mais là, je lui ai dit, écoute, maman, je te promets, à 5e année, elle m'a dit, on verra. Comme j'avais jamais redoublé de ma vie, voilà. Mais je m'étais dit, j'y croyais à ce que je disais. Et en fait, j'ai fait un stage en entreprise entre la 3e et la 4e année chez un ami de ma mère qui était le directeur, bon, il se trouve que là, pour le coup, elle avait le bras long, de Milan Presse, donc à Toulouse.
Ah.
Donc, ce gars, qui était très sympa, il a dit, bon, je veux bien prendre ta fille qui vient de redoubler. La nulle. Mais par contre, qu'elle amène pas de matériel de dessin parce qu'elle va pas dessiner. Hein. Genre qu'elle croit pas qu'elle va devenir illustratrice chez nous. Elle va changer les fonds des CD-ROM à l'époque. Donc, genre, il y a des CD-ROM avec genre un fond beige, mais c'était pas le bon pourcentage de beige, donc il fallait vérifier toutes les images. Et il se trouve que tout le monde était en vacances. Et là, en fait, sur les conseils encore de ma mère, elle m'a donné 2-3 conseils, mais elle me dit, Lisa, franchement, tu y vas et tu leur demandes de te faire travailler à blanc. Je leur dis, non, mais comme ça, tu bosses. On sait jamais. Alors, j'arrive aux différentes rédactions et je tombe sur les clés de l'actualité junior, donc c'est un journal d'information pour les enfants. Et là, je leur dis, est-ce que vous n'avez pas des articles à illustrer ? Moi, j'ai bien compris que c'était un exercice, mais je le ferai à blanc. Et là, il me propose un article, et là, j'ai genre 12 idées. Non, parce que j'étais un peu hyper... Bon, dont 8 qui étaient vraiment moisies. Mais je montre tout. Et comme ça, j'en ai, je sais pas, d'un coup, il m'est venu des milliards d'idées. Et alors là, ils disent, comme tout le monde était en vacances, ils disent, bah écoute, on va la prendre, ton idée. Ils en choisissent une, et ils me disent d'accord. Et à partir de là, et jusqu'à pendant des années, j'ai travaillé pour les clés d'actualité junior.
Génial.
Mais aussi pour Julie. C'est devenu mon vrai travail, et à tel point que ça m'a ramené assez d'argent. Bon, j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup de besoins, mais j'ai fini par, en fait, la cinquième année, du coup, je me la suis payée moi-même. Et puis aussi, j'ai tout, j'avais un compte épargne fait pour ma grand-mère aussi, qui a bien été creusé.
Il a morflé, ouais.
Il a morflé. Mais par contre, j'ai réussi à commencer à m'autonomiser, à travailler en dehors. Et j'étais donc quand même au départ dans la même classe que Boulet, qui lui travaillait chez Tchou déjà en étant encore étudiant.
Ah oui, c'est vrai.
Bien
et
sûr,
il
m'avait,
il faisait Ragnarok à l'époque et il me dit Lisa. Alors nous, on était très en compète avec Tchou, avec Boulet. C'est-à-dire qu'il y avait un concours d'affiches dans une petite ville à côté de Strasbourg et on se tirait la bourre pour... lui aussi, il avait ce truc-là, un peu de compète. Et il se trouve que les deux fois, j'ai gagné le concours parce qu'ils aimaient mieux. Enfin, on n'avait vraiment pas le même style et puis du coup, ils étaient plus sur les trucs. Moi, je fais des trucs à la peinture à l'époque. Ouais. Et il était dégoûté de oui, moi, j'ai passé toute la nuit dessus, elle arrive, elle fait une heure, elle a le prix. Donc avec Boulet, on avait toujours ce truc.
Il était vraiment énervé de ça.
Oui, mais bien sûr, mais Boulet, c'est pas quelqu'un qui s'énerve. Donc oui, ça, bah oui, quand même, ça l'énervait, mais à la fois, ça le faisait rire. Et c'est lui qui m'a fait rentrer chez Tchou. Il m'a dit, mais Lisa, parce qu'il voyait bien, mais je continuais de faire des petites BD dans les coins. Et il me disait, mais j'avais fait un fanzine. Voilà, je faisais un fanzine de BD.
Qui
voilà.
N'a pas fait de fanzine
à 18 ans, vers 20 ans, j'ai fait un fanzine de BD gay et lesbien avec ma petite amie de l'époque qui a prêté une amie et deux garçons, dont un qui était étudiant aussi. Donc on faisait de la BD humoristique dans ce fanzine qui a eu un certain succès, on le vendait dans l'école. Et donc c'est là où j'ai commencé aussi à faire du dessin d'humour. Et je faisais toujours mes petites BD comme ça dans les coins.
C'est le moment où tu t'engages un peu dans tes dessins ou...
Ouais, mais alors là par contre, ouais, j'y vais un peu avancé en chronologie. Avant ce truc-là de Boulet, de moi qui redoublais, avant tout ce truc-là, il y avait un prof qui s'appelle Joseph Béhé, qui est toujours prof aux Arts Déco, et qui avait lui-même un style très réaliste, un peu dans la veine. Alors il a fait, je crois, le Décalogue, il avait fait un des tomes du Décalogue.
Ah ouais.
Et il avait un dessin extrêmement réaliste, mais par contre, c'est un pédagogue hors pair, c'est-à-dire qu'il avait une ouverture d'esprit par rapport à la BD qui était hyper large, puisqu'il aimait des choses qui étaient très loin de ce qu'il faisait. Et c'est donc ma deuxième claque. Arrive un jour où il étale un tas de livres au milieu, et il dit, voilà, c'est une nouvelle maison d'édition qui s'appelle L'Association.
Alors attention, Lisa, c'est ta troisième claque.
Non, ma deuxième, Mafalda. Ah non, non. Mais ouais, mais Mouse, non, parce qu'après j'ai une...
Mouse, c'est un ennemi, tu veux dire? Écoute, on va t'accorder quatre bandes dessinées.
Non, mais c'est bon, parce que c'est la troisième. Et après, les autres, non, après je pourrais parler des trucs qui m'ont plu, mais pour de vrai, c'est vraiment la troisième. Celle-là, elle a été fondatrice. C'est-à-dire que cette claque-là, elle a conditionné toute ma carrière. Donc, il arrive avec plein de bouquins de l'Asso, dont un bouquin qui était Le Pays des Trois Sourires, de Lewis Trondheim. Et cette BD, avec ses petits strips qui faisaient toute une histoire, alors chaque strip c'était un gag et ça finissait par faire une histoire, plus Lapino, les carottes de Patagonie, mais après il y en avait d'autres, mais celui-là spécifiquement je l'ai copié, c'est-à-dire j'ai pas copié le contenu, mais j'ai copié la forme pour mon diplôme. Quand j'ai vu les bouquins de l'Asso, il y a quelque chose qui s'est débloqué dans ma tête, où je me suis dit... Ah, mais on peut faire de la BD sans dessiner au bleu derrière, sans forcément faire beaucoup de perspectives. Et avec un dessin hyper simple, on peut y arriver. Puis là, il y a vraiment des éditeurs qui éditent ça. Parce qu'avant, à part Mouse, moi, je voyais bien que les gros éditeurs, ils éditaient quand même que des trucs un peu franco-belges ou un peu américains. Mais... Donc là, d'un coup, il y avait une nouvelle génération qui proposait ce que moi, je faisais, en fait, en BD. Enfin, ouais. Ce que moi, je savais faire. C'est-à-dire que je voyais bien que dans leur niveau de dessin, j'avais encore du travail, mais je voyais que c'était pas inaccessible, contrairement à Loisel ou à Bilal. Et donc, et puis l'humour, tout, l'univers, il me plaisait, le dessin, il me plaisait. Et en plus, comme j'avais redoublé, il y avait aussi en fait des Rennais, il y avait Jean Brossard, je crois. Enfin, il y avait plusieurs personnes qui participaient à une revue qui s'appelait Judith et Marinette, et qui était une revue où il y a eu Imus, Sébastien Lumineau qui a fait ses débuts, il y a eu Toffepi qui était dedans. En fait, c'était tout un... Et alors cette BD-là, pareil, elle avait une liberté de ton et de dessin qui m'a vachement impressionnée. Mais donc voilà, donc Le Pays des Trois Sourires, à partir de là, je me suis dit, mais avec un dessin comme le mien, on peut y arriver. Donc j'ai fait mon diplôme, et en même temps, je suis rentrée dans Tchou. Et en fait, par contre, mon dessin, qui était quand même un petit peu jeunesse, avec le style que j'avais un peu alternatif, il marchait. Bah, il a été pris, j'étais prise dans le show, donc j'ai fait comme ça des petits strips très glauques d'un truc qui s'appelait Louis Lagalle, qui était un gamin qui était persécuté par ses camarades. Et ensuite, à mon diplôme, le DA de Tchou m'a demandé de préparer un album, qui est devenu Nini Patalo, donc mon premier album. Et au diplôme, j'ai proposé trois projets. Un projet de photo tout raté, un projet de livre pour enfants, assez laid. J'ai été sauvée par
la BD
qui était comme ça. Et là où les gens ont reconnu m'ont dit ça a sauvé le reste parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Ouais. Mais j'ai été maltraitée au diplôme. En plus, j'avais montré tout ce que je faisais parce que du coup, ça faisait un an ou deux que je faisais des dessins chez Million Press. Et tout ce que je croyais être un avantage m'a été renvoyé dans la figure. C'est-à-dire qu'on m'a dit que j'avais pas d'originalité, que ce que je faisais, c'était hyper convenu, que j'avais déjà un style, que je bougerais plus. Et en fait, on m'a reproché de réussir déjà à vivre de ce que je faisais, en niant complètement le fait que j'avais encore une capacité d'évolution énorme. Et ils ont été complètement à côté de la plaque, parce que du coup, ils m'ont vu comme si je m'étais enfermée dans quelque chose et que j'allais rester toute ma vie. Parce que je pense que finalement, j'avais un style, pour le coup, en jeunesse, enfin, illustre, avec les petites bulles, les dessins de presse qui étaient peut-être assez stables à l'époque. Et du coup, ils ont présagé ça, mais ils ont fait pareil, ils ont présumé de ça, ils ont fait pareil à Boulet. C'est-à-dire que le fait qu'on ait déjà bossé, qu'on ait déjà un style et tout, ça nous a complètement desservi. Et ils ont beaucoup plus mis en avant et encensé des gens qui avaient des styles très singuliers, originaux, ce que je trouve génial. Hein. Mais en fait, ça ne nous a pas rendu service d'être déjà dans le mainstream et dans le... Voilà, et dans la BD. Et donc, voilà, donc le Pays des Trois Sourires. Moi, je me suis, du coup, par contre, je me suis retrouvée tout de suite chez un très gros éditeur qui est Glénat.
Et comment ça se passe, ça? Comment tu te retrouves chez Glénat?
Eh bien, parce que Tcho, c'était Glénat.
Ah.
Donc, en fait, comme je rentre dans Tcho, après, comme j'étais la seule fille dans Tcho.
Il est sympa, Zep?
Très sympa.
Ok.
Donc, comme j'étais la seule fille à dessiner dans Tcho, ben, le DA, qui était Jean-Claude Camano à l'époque, me dit, eh ben, Lisa, fais-nous une petite œuf au féminin. Genre, rien que ça. Hein. Là,
ah, bah, oui, bien
pas
sûr.
Pas de pression. Ouais, quand je faisais de la musique, il y avait des gens. Oh, fais-nous un tube. Bah. Ok.
C'est pas moi qui choisis.
Donc, je. Et puis moi, j'étais hyper fan de Dupuis Bermarion et de Henriette, du journal d'Henriette
ah ouais.
à l'époque.
Ah, j'ai Henriette.
Oui,
putain,
et je me disais, dès que je pensais Titeuf au féminin, j'avais l'espèce d'image d'Henriette qui se mettait, qui se collait.
Mais bien
à
sûr,
moi.
Henriette. Oh,
et je me disais, j'arriverais jamais. Je pensais trop à Henriette et tout. Et du coup, j'ai quand même fait un personnage, donc Nini Batalo, qui est une petite fille, mais alors ça avait juste ça. Enfin, c'est le seul truc où j'ai respecté la consigne, puisqu'au final, c'est une histoire, mais complètement burlesque et. Enfin, dans un délire total, qui était de la BD, complètement avec un humour absurde. Moi, je me suis éclatée, mais ce qui est drôle, c'est que je m'étais dit, bon, là, je me fais plaisir, je fais cette petite BD sans prétention, et après, je ferai de la vraie BD. Or, c'est cette BD-là qui m'a fait en fait rentrer dans la BD et qui a été en fait assez appréciée par tous ces gens de l'assaut. Enfin, après, c'était un peu
Comment ils accèdent
à ça ? Parce qu'ils avaient des enfants qui avaient l'âge de lire mes BD.
Ah.
Et donc, en fait, la chance que j'ai eue, c'est toute cette bande de l'assaut arrivée sur la quarantaine. On va dire 35-40 ans, avaient tous des gamins qui avaient l'âge de lire. Et donc, ils cherchaient des BD pour leurs gosses. Et ils ont tous, ils ont kiffé Nini Patalo. Mais Dupuis et Barbarian aussi, d'ailleurs, ils m'avaient parrainé. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec toutes mes idoles de cette nouvelle vague de la BD que j'adulais, qui sont venus me voir en me disant. Et aussi Blutch. Ah oui, parce que alors, moi, j'étais méga fan. Parce que, alors, par contre, je suis désolée de ne pas avoir parlé de lui, mais moi, j'étais hyper fan de Blutch. Alors, c'est-à-dire, je citerai pas une BD, mais moi, j'étais fan de tout. C'est-à-dire que tout ce que faisait Blutch, je m'agenouillais devant, j'étais mais et vraiment extrêmement fan de lui. Et pourtant, ça ressemblait évidemment pas du tout à ce que je faisais. Donc, Blutch, c'est plus lui en tant qu'auteur, tout ce qu'il faisait me bouleversait. Je trouve ça péplum, j'ai adoré, enfin, j'adorais tout. Et donc, voilà, mais même Blutch est arrivé en disant, mes enfants disent Nini Patalo. Et donc, ils m'ont vachement aidé dans ma carrière, en fait, parce qu'ils ont soutenu Nini Patalo. Et ensuite, ils m'ont proposé de bosser avec eux. Et c'est à la suite de cette BD-là que j'ai commencé, j'ai fait Nini Patalo pendant plusieurs années. Après, Sfar a monté sa collection Bayou, qui est Gallimard, et du coup, il m'a proposé de faire une BD, donc j'ai fait ma première BD un peu plus longue.
Tous ces jalons là que tu vis, à ce moment-là, tu te dis, c'est normal, je l'avais prévu, ou c'est chaque fois une fête?
Alors, j'étais hyper contente. À la fois, j'ai jamais eu un succès public énorme. C'est-à-dire que quand j'arrive en dédicace, j'avais personne qui faisait la queue, quoi. C'est pas comme si. Mais par contre, j'avais un bon succès critique et de mon entourage et professionnel. Et je me retrouvais en face de mes idoles qui me disaient que mon travail était bien, donc j'étais aux anges. Mais à la fois, ça m'a dépassé. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à faire deux bouquins par an, parce que je faisais aussi une autre série qui s'appelait Eddie Milleveux chez Milan, du coup, et je me suis retrouvée en burn-out. En fait, je pense que je suis arrivée à 28 ans, 29 ans, et c'était trop. C'est-à-dire que j'avais l'impression déjà d'avoir une longue carrière, alors que bon, en fait, j'avais 3 ans de carrière, quoi. Et je pense que je me suis laissée un peu bouffée par ce truc que quand on est un jeune auteur, en fait, et que d'un coup, les gens aiment bien ce qu'on fait, on est hyper sollicité. Moi, j'arrivais pas à dire non. Donc, je me suis retrouvée un peu débordée. Et là, 30 ans, le drame, je deviens épileptique. Et ça a été pour moi une énorme rupture.
Ça, tu fais une première crise d'épilepsie?
Ouais, mais après que ça a pu arrêter, c'est-à-dire que je suis devenue épileptique à 30 ans, quoi. J'ai arrêté Nini Patalo, j'ai arrêté la jeunesse, je me suis retapée parce que j'ai eu quand même un an ou deux de gros passages à vide, je me suis endettée. Parce que comme toute bonne autrice de BD, j'avais pas compris que ça existait le congé maladie. Donc, j'ai continué de, j'ai quasiment pas travaillé pendant un an, puis j'ai rien gagné, donc je me suis retrouvée en interdit bancaire. Donc c'était vraiment la loose. Et à partir de là, en fait, je me suis. L'asso m'a proposé. J'ai parlé d'un projet sur les hôpitaux psychiatriques de mes parents avant d'être épileptique. Et j'étais à l'époque, c'est avec Jean-Christophe Menu que j'en avais parlé. Puis aussi, c'était Lewis qui m'avait dit d'en parler à Jean-Christophe. Et donc j'ai commencé cette BD HP. J'ai fini ma BD pour Gallimard Bayou, qui est d'ailleurs finalement assez sombre, même si elle est humoristique. J'ai plus réussi à faire de la jeunesse et de l'humour parce que j'allais trop mal. Et quand je suis allée mieux, bah là, j'ai la deuxième partie de carrière qui a démarré. C'est que je me suis mise. D'abord, Nini Patalo est adaptée en dessin animé. Donc j'ai écrit beaucoup d'épisodes.
Un peu de sous, du coup, qui tombe.
Ouais, des sous. Bah, je me suis mise à faire ça, à être directrice d'écriture, à apprendre le scénario avec un très bon ami, Laurent Sarfati, qui est scénariste, qui m'a appris à écrire du scénario. Donc je suis allée plus là-dedans. Et quand je suis revenue à la BD, j'étais dans autre chose. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis pris de passion pour la BD. D'abord la BD autobiographique, puisque j'ai fait partie de la vague des blogs BD. Ah. J'ai fait Libre comme un poney sauvage. J'étais contemporaine de Boulet et tout ça, qui était arrivé un peu avant moi. Mais j'ai arrêté, par contre, quand je suis devenue épileptique, ça aussi j'ai arrêté. J'ai tout arrêté la même année.
Tu penses qu'il y avait un lien entre ces débuts d'épilepsie et...
Je pense avec le recul que c'était là. De toute façon, quand on est épileptique, en fait, je l'étais sûrement depuis longtemps. J'avais fait une crise enfant, mais j'en avais plus jamais refait. Et donc, ça devait être là. Et en fait, je pense qu'avec le stress, le fait d'avoir l'impression que j'allais pas y arriver, ça s'est exprimé là. Mais je pense que j'ai fait une espèce de dépression qui était liée au fait que ça a été trop, quoi. Mais à la fois, c'était pas trop financièrement, je sais pas comment dire. C'était à la fois, j'étais hyper. D'un coup, tout allait super bien, mais j'arrivais pas. Je crois que je me suis retrouvée. Je me suis noyée là-dedans.
T'as pris ça pour un message quand même.
Bah disons après quand on fait une thérapie parce qu'après quand on devient épileptique on va très très mal quand même. Il faut trouver les bons médicaments. Enfin moi j'ai vraiment passé des années difficiles et puis c'était surtout comprendre oui, il y a toujours une raison. Alors après c'est psychologique mais après c'est comprendre comment ça se déclenche et c'était la lecture. En fait en plus j'ai dû arrêter de lire. Ouais, c'était la lecture qui me provoquait les crises et qui me les provoque toujours. Donc j'ai développé des stratégies mais du coup c'est pour ça aussi que je lis beaucoup moins de BD depuis lors, depuis mes 30 ans.
Tu m'étonnes que t'étais torgale du coup.
Ouais, parce que je les relis pas, je peux plus me permettre de dire ah je vais relire 15 torgales. Et passer 8 heures à lire, je peux plus le faire.
Si tu dis 8 heures, c'est beaucoup. Hein.
Oui, mais je pouvais faire ça. Moi, je pouvais lire 13 heures d'affilée. Enfin, j'avais pas de limite. Hein. Donc voilà.
Okay.
Mais des livres aussi. Hein. Je disais pas que des BD. Mais voilà. Mais ça, je veux dire, ça, une fois que je m'en suis remise, j'étais passée à autre chose. Et c'est là où je me suis mise à faire de la BD documentaire. Ce que j'ai pas arrêté de faire finalement. J'ai fait encore un peu de fiction, puisque j'ai fait de l'autofiction, pas mal. Et puis j'ai participé à Chicou Chicou, j'ai fait. Donc il y a une BD qu'on avait fait à quatre mains avec Boulet, Haute Picot, Domiti Collardet, puis ensuite rejoint par Erwan Surcouf. Enfin, quand moi je suis partie, mais pareil, je suis devenue épileptique à ce moment-là, donc j'ai arrêté, j'ai quitté Chicou Chicou. Quand je suis devenue épileptique, en fait, je me suis rendu compte de ça, mais genre 15 ans plus tard. Mais là, il y a 10-15 ans après, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, cette période-là, j'ai arrêté. Ça a fait une rupture dans ma carrière. Et quand elle a reparti, elle est repartie autrement, un peu plus sombre, un peu plus réaliste. Et là, moi qui ai toujours adoré la BD du réel, j'adore Guibert, le photographe, c'est une de mes BD préférées aussi. Ouais. J'ai un peu hésité hein, avec tous les... L'Ascension du Mal. Et ce qui est drôle, c'est que par contre, je l'avais lu avant d'être épileptique. Moi, L'Ascension du Mal, j'ai adoré. C'est une de mes BD préférées aussi. Je l'ai trouvée extraordinaire. Donc j'aimais beaucoup déjà les BD comme ça, qui parlent du réel. Et à partir de là, je me suis mise à faire donc HP. Puis après les années passant, j'ai fait La Jungle de Calais. J'ai monté une collection de BD sociologiques chez Casterman avec Yasmine Boaga, donc une chercheuse en sociologie. On a été sur la Jungle de Calais. Je me suis mise à avoir ce blog sur au Monde. J'ai suivi les élections présidentielles avec Macron. Enfin, après, en fait, ma vie à partir de là, elle s'est de plus en plus orientée sur la BD du réel jusqu'à la dernière BD où je me suis carrément auto-éditée. J'ai décidé de.
Ah oui, bah voilà, c'est un gros morceau ça dans ta carrière et dans ta notoriété quand même, l'auto-édition.
Bah, je pense que ouais, l'auto-édition, en fait, ça m'a fait un peu plus connaître parce que bon, après, je commençais à être un petit peu connue, mais dans le milieu. Après, le fait de monter, de m'auto-éditer, déjà, il y avait d'autres gens qui l'avaient fait avant moi, mais c'était déjà un peu olé olé. Puis alors après, que derrière ça, je crée ma maison d'édition. Enfin, en plus, qu'on l'a créée à deux. Hein. Je suis associée avec Antoine Vidcock, qui est un ingénieur en informatique. Et on a monté cette structure et avec aussi l'aide de tous les auteurs qui ont accepté de faire les premiers albums chez nous, c'est venu d'un ras-le-bol hein, parce que là après si on parle d'un truc plus politique
moi, mais c'est ça, mais c'est une question importante quand même, c'est quoi ce ras-le-bol?
Le ras-le-bol c'est qu'au fur et à mesure des années on essuie des... quand on n'est pas un auteur star mais qu'on est un auteur entre deux eaux, j'ai envie de dire, enfin, moi, je dis tout le temps middle class, quoi. Donc, on vit de ce qu'on fait, mais en fait, on vit toujours avec quand même l'argent du prochain livre qu'on n'a pas encore fait. Donc, on est tout le temps dans une dette. On est obligé de faire je sais pas combien de pages parce que qu'on voit que le prix de la planche, il chute, là, en 15 ans. Moi, je suis vraiment arrivée à la fin de l'âge, de la période correcte. Donc, j'ai vu tout se dégrader en 15-20 ans, là. Et qu'on voit que les énormes éditeurs, en fait, on n'a pas l'impression d'être super défendus, qu'on a l'impression qu'en fait, ils défendent les gens qui sont déjà hyper connus. mais que quand on arrive, nous, on n'est pas forcément défendu, qu'on signe des contrats d'une opacité, puis qu'on nous force comme ça, mais vraiment, on nous force comme ça, là, on nous met le papier, là, on peut pas le voir, mais on nous met le papier comme ça pour signer des droits audiovisuels, des droits où si on négocie pas, on se fait tellement arnaquer, qu'on cède nos droits 70 ans après la mort, que et puis que tout, il faut tout relire et tout leur dire, ben non, là... Je veux pas que t'écrives, que tu peux tout changer sur la couverture si tu veux et mettre et faire n'importe quelle pub. Non, je veux avec mon accord. Alors avec les éditeurs qui font, mais tu sais qu'on n'applique jamais cette clause. Je dis, bah alors enlève-la. Et que chaque fois qu'on re-signe un contrat, il faut redire ça. Que les droits d'auteur, ils sont de 8%. Alors on essaie de négocier à 9%. Tout est comme ça. Et qu'après, au final, j'ai trouvé que je vivotais. Enfin, je remboursais jamais mes avances sur droit. Du coup, je touchais jamais de droits d'auteur, sauf chez l'association. Alors, on peut dire que c'est parce que j'étais moins bien payée au départ, mais quand même, l'asso... Alors, au bout d'un moment, j'en avais marre de tout. Je me disais, j'aurais dû être chez des indés depuis le début, mais bon, j'avais des super bonnes avances. Enfin, correctes, en tout cas, au début. Donc, j'ai aussi dit accepter des projets parce que j'étais bien payée, alors que l'asso, tu sais, elle n'avait pas les moyens de me payer aussi correctement. Mais au final, je trouve que j'étais mille fois mieux défendue par une structure comme l'association. Mais après, les autres, ils étaient adorables. Les éditeurs que j'ai rencontrés dans ces grosses maisons d'édition, ils étaient adorables. Attention, c'est super, mais je pense que c'est le système. Et c'est ce système où l'auteur, il a des droits d'auteur moisis et que j'ai vu aussi arriver le moment où on nous a demandé de faire de plus en plus de trucs.
Ouais.
C'est-à-dire, ah bah, tu scannes tes pages, puis tu les nettoies, puis tu les livres presque prêtes à imprimer. Puis si tu pouvais me séparer les couleurs et à la fin... En fait, l'auteur qui au départ était quand même censé dessiner son truc, l'envoyer et puis y penser, il s'est retrouvé à faire toute la maquette et tout ça de ses livres, et en plus à faire sa promo sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ils étaient là,
ouais.
Et puis être de moins en moins bien payé. Alors moi, j'avoue, j'étais pas contente. Je râlais, je me plaignais. Bon, je passais mon temps à chouiner, et au bout d'un moment, je me suis auto-éditée en disant, Lisa, au lieu de chouiner, fais ton truc, tu verras bien. Et là, tout le monde m'a dit, mais tu vas... galérer, ma pauvre, ça va être horrible. Pardon, je vous fais un peu d'ASMR. Alors donc ça va être horrible. Ouais, ça va être horrible et tout, et que en fait quand j'ai entendu que ça allait être horrible, j'avoue, je me suis dit, ah, écoutons quand même les gens qui sont plus avisés que moi. Et du coup, j'ai pris une équipe. Mais du coup, c'était de l'auto-édition quand même relative, parce que j'ai trouvé... Du coup, il y a eu Estocafiche, donc Damien Filiatre de Misma, l'éditeur de Misma, qui m'a dit « Oh, mais moi, Lisa, je peux t'aider à faire le suivi de Fab. » Parce que j'avais jamais fait. Ensuite, j'ai une amie graphiste qui m'a dit « Oh, mais je te fais la maquette. » Et ensuite, j'ai une amie... Enfin, tous ces gens-là, à part Damien qui m'a dit « Non, je te le fais. » Parce que c'était... Ce qui est trop sympa, quoi. Il a fait le suivi de Fab comme ça. Mais par contre, la maquette, j'ai payé la personne, mais quelqu'un m'a fait la maquette. Il y a eu une copine qui a fait la correction orthographique. D'ailleurs, j'ai fait, ah oui, ça coûte ça. Je pensais pas que ça était aussi cher, mais en fait, ouais. C'est normal. J'avais un bouquin de 400 pages quand même, donc. Mais elle l'a fait. Et après, j'ai créé un groupe pour tout distribuer quand j'ai fait le crowdfunding. J'ai fait un crowdfunding sur Ulule que j'ai réussi moyennement, mais ça va, mais c'était pas non plus la folie.
T'as atteint ton.
J'ai atteint mon objectif, mais quand même, 4 mois avant le livre, j'avais plus l'argent, j'avais tout dépensé. Donc j'ai dû faire une pré-vente sur je sais plus quoi. Mais non, mais si, c'est hyper connu, c'est que je suis fatiguée.
Le gros gars, là, Jeff Bezos, tout ça.
Non, mais oui.
Amazon.
Non, pas lui. Non, PayPal.
PayPal, ah voilà.
Oh là là, ouf, c'est la fin de la journée, là.
Tu mettais en pré-vente.
Elon Musk, alors.
Voilà, Elon Musk. Donc je mettais, et ça m'énervait aussi. D'être chez lui, parce que je trouvais que je
pouvais donner plein de... Comment ça, sur PayPal, tu peux mettre...
Non, mais je vendais... En fait, oui, il y avait un lien PayPal. En fait, moi, je vendais ma BD sur mon site, il y avait un lien PayPal et les gens pouvaient acheter ma BD.
Ouais.
Et donc, j'ai réussi à me refaire. Alors ça m'a vachement étonnée. J'ai refait autant de sous en 4 mois, parce que c'était la fin de mon année exemplaire. Donc, j'ai décidé pendant un an d'arrêter tous les excès. Ça a été affreux, il y a eu le Covid en plein milieu. Mais au final, j'avais une BD de 400 pages, parce que je me suis engagée à publier une page par jour. Et donc, sur les réseaux sociaux, donc, j'ai eu une... des gens se sont mis à suivre de plus en plus nombreux cette BD. Et au final, quand je l'ai mis en pré-vente, donc 4 mois avant qu'elle sorte, j'ai doublé ma mise. Et du coup, j'ai pu l'imprimer, parce que j'avais même plus les sous pour l'imprimer. Et là, j'ai monté une équipe, donc composée de ma sœur, de ma copine à l'époque, et puis d'autres gens, d'une amie, aussi de la même amie qui est graphiste, la Pauline. Et on a tout empaqueté ensemble et on a tout envoyé. Et après, j'ai continué à en vendre au fur et à mesure. Et là, c'était horrible, parce qu'elle a la poste pour un livre tous les jours, c'était chiant. Et donc là, ma sœur était en chômage technique, parce qu'elle bosse dans un club de rugby, enfin elle bossait, et c'était là au Covid. Donc elle me dit, mais moi Lisa, je peux stocker les livres et les envoyer à ta place. Donc finalement, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui faisait la distribution, quelqu'un qui avait, enfin tous les gens qui avaient tout fait, et moi je devais juste gérer la pub. Et donc, à partir de là, quand il y a eu le Covid et tout, je me suis mise à me dire, mais on pourrait monter une maison d'édition sur ce modèle-là, plutôt que, parce que là après je me suis dit, le second je le ferai comme ça. Ah oui, parce que je me suis fait vachement d'argent au final. Parce que le livre a été sélectionné à Angoulême. Qu'en fait, il s'est super bien vendu, mais c'était pas, j'ai dû en vendre 6500, mais ce qui est beaucoup pour l'auto-édition, mais j'avais des droits d'auteur de ouf, j'avais genre 60% de droits d'auteur ou 70, donc je me suis fait vachement d'argent, enfin vachement, suffisamment pour vivre.
Combien de fois plus que ce que tu te serais fait
Je me suis fait, par rapport à un livre comme ça, 400 pages, en noir et blanc, j'aurais peut-être touché, alors moi je suis vraiment, en plus je suis nulle pour négocier mes avances, j'aurais peut-être touché 13 000, 14 000 euros, 15 000, parce que ça fait 15 ans que je fais de la BD, mettons 15 000, et mettons même 20 000, et j'ai touché, je sais pas, 50 000.
Ah ouais.
Mais après, sur le temps, et comme j'ai fait, après j'ai monté ma structure, ça m'a fait vivre, et comme j'étais endettée d'avant, parce que quand j'ai fait ma BD par contre en auto-édition, j'étais plus payée. Oui. Donc je me suis endettée, donc c'était un peu pourri, je suis très mal organisée financièrement, mais ça m'a en tout cas rapporté vachement plus de sous que toutes les BD que j'avais pu faire avant. Donc j'ai monté cette structure, donc j'avais un ami qui était mon ancien voisin de palier, qui était ingénieur en informatique. Et un jour, je lui ai dit, oh, Antoine, est-ce que tu saurais, toi, créer un site de crowdfunding qui sera en même temps une maison d'édition? Et je lui raconte. Et lui, il venait de décider qu'il ne voulait plus être ingénieur en informatique, mais menuisier. Et il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de bois à Marseille. Donc, il s'était dit, putain, c'est quoi mon projet? Il est un peu foireux. Et du coup, il me dit, mais moi, ton projet me plaît. Je suis prêt à bosser. J'ai un peu de chômage, là. Parce qu'il avait, par contre, lui, quand il bosse, c'est un très beau poste. Donc, ouais. Il gagne plutôt bien sa vie. Et moi, je veux bien, ouais, aller banco. Je trouve que l'idée, elle est marrante. J'y crois. Et là, il y a eu un alignement des planètes, hein, parce qu'il y a lui qui croyait. Ensuite, j'ai eu un expert comptable qui s'appelle Benjamin Sardan, qui était déjà l'expert comptable de plusieurs personnes de la BD, qui m'appelle et qui me dit « J'ai vu que tu t'étais auto-édité, nous on monte des structures pour aider les gens à s'auto-éditer. » Et là, je lui parle de mon projet, de faire une maison d'édition qui fonctionnerait sur du crowdfunding, où les auteurs auraient 40% de droits d'auteur, et en avoir 10%. Et là, il me dit « Mais banco, moi je te suis, j'aime le projet, je serai votre comptable. » Alors ça faisait genre le comptable, l'ingénieur informatique. Et là, j'appelle 15 personnes, 15 auteurs que je connaissais. 10 acceptent de faire leur premier livre chez Exemplaire.
Donc
chez
par exemple
Alors il y avait, la fille qui ne se rappelle plus, et Soulcier, Pochep, Charles Berberian. J'ai appelé Lucille Gomez, Aurélien Fernandez. Après, c'est des gens que j'avais vus sur les qui étaient beaucoup sur Instagram. Parce que je me suis dit, il faut des auteurs qui ont déjà un réseau de lecteurs et du coup, qui pourront défendre leurs bouquins sur les réseaux sociaux pour qu'après, on fasse un bon crowdfunding et nous, on leur donne un max de thunes du crowdfunding. On prend très peu exemplaires. Et donc, il y a eu plein d'auteurs plus ou moins connus, mais quand même certains très connus, dont moi, j'ai lancé un crowdfunding. Il y a Boulet qui s'est incrusté et qui nous a triplé le chiffre d'affaires.
Ça a cartonné. Moi, j'ai voulu donner, c'était trop tard.
En fait, Boulet, il est arrivé en septembre, c'était pas prévu. Il y a quelqu'un qui devait passer en septembre et qui a pas pu. Et il s'est mis comme ça, et en fait, il nous a. Ouais, il a fait un tiers du chiffre d'affaires, on va dire, de l'année. Donc lui, il a très bien marché. Mais en fait, tout le monde a rempli ses objectifs. Tout le monde a. Donc, ma sœur a monté une boîte de distribution. Donc, c'est elle qui stocke et qui distribue. En fait, je voulais passer par personne de d'habitude. Et on a créé une maison d'édition, donc on garantit, où tout le monde est payé au droit d'auteur. En pourcentage, je veux dire, de la correction orthographique, en passant par la maquette, jusqu'à l'auteur, tout le monde est payé en pourcentage sur les ventes. C'est-à-dire que si le livre ne se vend pas, personne n'est payé. Et si le livre se vend beaucoup, tout le monde est mieux payé.
Si l'auteur n'atteint pas un certain montant.
C'est comme Ulule, on ne lance pas le livre. Hein.
Okay.
Mais sauf qu'en fait, notre montant, il est toujours atteint, parce qu'on demande 10 000 euros. Et bon, jusqu'à présent, on a toujours atteint, voire doublé. En général, on double la mise, ce qui est un peu en vérité, il faut 20 000 euros pour pouvoir payer tout le monde correctement. Mais oui, on a jusqu'à présent, du coup, on a lancé quand même pas mal de crowdfunding, là, depuis un an. Et du coup, ça a marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des auteurs, par exemple, des auteurs qui ont démarré chez nous et qui, au lieu d'avoir des avances ridicules, ils ont réussi à avoir des avances, d'avoir de l'argent. C'est même pas des avances, en plus, c'est de l'argent gagné.
Pourcentage de leur vente,
dès qu'on en revend un autre, ils retouchent, c'est pas une avance, quoi.
Ouais.
Et grâce à ce système-là, ils sont mieux payés. Et surtout, ça, c'est pas toujours facile quand on a un auteur de l'ancienne école. Ils sont complètement remis au centre de leur production. C'est-à-dire que l'auteur chez nous, il décide de tout. Il co-décide de tout avec toutes les personnes qui interviennent sur le livre. Donc, il décide de quel papier il veut, de quelle taille le bouquin va faire, quelle matière. C'est pas qu'on décide pas d'habitude, parce qu'on est souvent consulté là-dessus, mais c'est qu'il est en direct avec tout le monde.
Et puis il y a des modes d'édition qui ont des chartes de livres.
Là, chaque bouquin, c'est un peu n'importe quoi. Chaque bouquin a sa propre esthétique. Après,
vous n'avez pas de garde-fou contractuel ou disant,
on signe des contrats là.
On va pas te les mettre sur des mouchoirs non plus.
Nous on décide. C'est-à-dire, c'est toujours en discussion avec tout le monde. Moi, j'ai le droit de veto. On a tous un droit de veto. C'est-à-dire, si moi je juge que le livre, c'est pas possible. De toute façon, il y a le prix. Le livre, nous on veut faire des livres pas trop chers, donc il y a une question de prix. Ensuite il y a le suivi de fab qui est fait par un pro. D'ailleurs Damien en a fait beaucoup de Misma, mais là on a aussi Chloé d'Angers qui en fait, qui est éditrice de même pas mal. Nous on bosse en freelance avec plein d'autres gens, notamment en édition, on a l'accompagnement éditorial est fait. Bon, il y a Coralie, il y a Marjorie, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'accompagnement éditorial pour les auteurs qui en ont besoin, parce que c'est pas tous les auteurs. Boulet, il a pas eu besoin d'un accompagnement éditorial, il savait très bien gérer son livre, mais des gens comme Marion, Amir Gagnant, qui bossent par ailleurs chez Glénat et qui bossaient pendant des années chez Delcourt. Elle, elle bosse chez nous en freelance, elle suit plusieurs auteurs et autrices. Donc on a aussi un accompagnement éditorial, parce que c'est ce qui nous a été un peu reproché au début. C'est « Ah ouais, vous voulez vous faire une maison d'édition sans éditeur ?» En fait, c'est pas du tout le cas. Il y a des éditeurs chez nous, il y a des auteurs qui en ont besoin. C'est un éditeur est indispensable parfois. Je dis « parfois » parce que c'est vrai qu'il y a, parfois il ne l'est pas. Voilà, Boulet ou moi, on n'a pas eu besoin d'éditeur, mais parce que ça fait 18 ans qu'on fait de la BD, que pour ces projets-là, on n'a pas ressenti le besoin. Alors ça aurait été peut-être mieux avec un éditeur, mais on n'en a pas eu besoin. Un jeune auteur, il y a des auteurs où, selon le projet, moi je sais que je pourrais avoir besoin à un moment donné d'un accompagnement. Donc voilà, donc ce projet-là, et on essaie de bosser avec les libraires, donc fait de la vente ferme. Et l'idée, c'est voilà, on vend moins de livres, mais on paye beaucoup mieux les gens, donc on est mieux payé en faisant moins de livres. Et l'idée, c'était pour créer une zone de dialogue et créer une possibilité chez des auteurs qui se heurtent souvent à des murs devant les éditeurs qui veulent rien changer à la répartition des droits, alors qu'il y a de plus en plus de livres, donc on vend de moins en moins de livres, que les éditeurs, eux, font toujours des bénéfices. Je parle des gros, hein. Voilà, à chaque fois je reprécise, les petits ils galèrent aussi, c'est une autre économie. Mais néanmoins, cette répartition de droits, elle n'est pas du tout à l'avantage de l'auteur. Et nous, on remet. Par exemple, l'auteur ne nous cède ses droits que 2 ans,
ah oui.
Au lieu de 70 ans après la mort. On prend les droits que en langue française, que sur le papier. Enfin,
mais si demain, tu as Boulet qui revend sa BD, allemand et qui vend des millions, tu ne seras pas deg?
Mais non, c'est son livre. Mmh. Moi, la vérité, je pense comme une autrice. Pourquoi moi, je vais avoir des millions sur la version allemande du livre de Boulet? J'ai fait quoi pour ça? Non, moi, je mérite d'avoir mes sous sur son livre qu'il avait chez nous parce que ça m'a pris du temps et de monter la structure et de la gérer. Mais je me sens pas jalouse de la réussite. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on m'enlève. Parce que c'est vrai que parfois, les éditeurs, ils inversent le truc. Ils disent « Ah, tu leur cèdes les droits audio ». Moi, j'ai envie de dire « Mais mec, d'où je leur cède ? » C'est eux qui nous cèdent pas leurs droits audio. C'est pas nous qui leur cédons les droits audio qui sont de fait à nous. Parce que l'éditeur, au bout d'un moment, certaines fois, il a l'impression qu'en fait, tout lui appartient et que c'est par grandeur d'esprit qu'il le laisse à l'auteur. Je dis « Mais c'est pas vrai, nous, en vrai ». Enfin, c'est pour ça que moi, en tant qu'éditrice, j'ai un mode de fonctionnement d'auteur. Et je pense que l'auteur qui est bien chez nous, il n'a pas de raison aussi de récupérer son bouquin en langue française et d'aller l'éditer ailleurs au bout de 2 ans. Mais s'il avait envie, il pourrait. Voilà. Et peut-être que ça va arriver, là, les prochains 2 ans, c'est vite passé. C'est 2 ans ou 4 ans s'il y a une réimpression dans les 2 ans. Voilà. Et les droits étrangers, non. Par contre, on a proposé à une personne freelance qui s'occupe des droits à l'étranger, qui est en contact avec les auteurs et qui leur propose de les aider pour vendre les droits à l'étranger. Mais nous, exemplaires, on prend rien là-dessus. Parce qu'on considère que, d'abord, c'est pas nous qui avons produit le livre, c'est l'auteur et c'est les lecteurs de l'auteur avec le crowdfunding. L'argent, nous, on n'investit rien à exemplaire, on ne prend pas de risque financier. Donc, l'argent, il est à l'auteur. Nous, on aide à la logistique, à ce que ça se passe bien, la coordination, à mettre les gens en contact. Parfois, moi, je suis des auteurs personnellement. On fait du coaching aussi de jeunes auteurs pour qu'ils montent leurs réseaux sociaux avant de les lancer chez nous. Mais après, pour le reste, c'est l'auteur, quoi. Mais il y a des auteurs qui ont encore du mal. C'est un fonctionnement qui ne convient pas forcément aux auteurs qui ont l'habitude d'être beaucoup plus pris en charge. Donc, un peu du mal à... Parce qu'il faut qu'ils remplissent leur crowdfunding eux-mêmes. Enfin, donc du coup, parfois, l'éditeur accompagnant, il se fait un peu ça, quand même.
Ça m'apporte 2 questions.
Oui.
La première, est-ce que un auteur qui n'a pas de communauté sur Instagram a ses chances d'être édité chez Exemplaire ?
Pas du tout. 0 chance. Parce qu'un crowdfunding, il faut avoir un public.
Voilà.
Alors, à part s'il est méga connu par ailleurs. Ça peut être... Si c'est une star de la BD. Même s'il n'a pas vraiment de présence sur les réseaux sociaux.
Quelque part, tu te prives peut-être de jeunes auteurs que tu pourrais dénicher.
Et non, parce que les jeunes auteurs qu'on déniche, parce qu'il y en a, eh ben, on leur propose un coaching. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a un jeune auteur qui débarque, il a, mettons, ce qui est déjà pas mal, 2000 followers, mais c'est pas suffisant quand même pour lancer, on lui dit, jeune auteur, on trouve ça génial ce que tu fais, t'as pas assez de présence sur les réseaux sociaux vu que t'as jamais fait d'album ou t'en as fait un. Donc nous, on va te coacher pendant 6 mois. On s'engage à... Normalement, on signe un contrat de coaching. Bon, on l'a pas toujours signé parce qu'on l'a pas réalisé. Mais en gros, on s'engage avec l'auteur à le booster pour qu'il monte à 10 000, mettons. On l'a déjà fait avec Caroline Nazica, une des jeunes autrices qu'on a. Et quand elle arrive à 10 000, c'est prévu dans le contrat. Elle intègre notre équipe et donc, elle peut lancer son projet en crowdfunding chez nous. Et ça a marché puisque donc, on a eu Caroline Nazica qui était au début à 2 000, 3 000 followers. Maintenant, elle a presque 20 000. Et elle a fait un super crowdfunding parce que du coup, elle a eu plein de monde. Donc, on peut aussi créer du... D'accord. L'idée, c'est de créer du public sur les réseaux sociaux pour les gens, pour qu'après, on puisse les défendre. Donc non, on ne se prive pas. Par contre, il faut que l'auteur soit prêt. Et souvent, ils sont très jeunes, ces auteurs-là. Soit prêt à développer son lectorat sur Internet.
C'est ça, donc Instagram est devenu un outil indispensable.
Ouais, c'est d'ailleurs un peu angoissant. Donc nous, je sais que... Bon, le problème, c'est que c'est le... Donc Antoine, mon associé, qui est aussi celui qui programme somme tout, a aussi besoin. Bah là, on s'est pas trop payé parce qu'on a monté la structure, donc il a aussi besoin de bosser, payé. Donc, on va pas le faire tout de suite. Mais nous, on s'était dit, ouais, il faudrait quand même qu'on trouve une solution pour pouvoir que nos livres soient visibles ailleurs que sur Insta, parce que le jour où il y avait eu une panne là, on avait tous été super inquiets.
La panne.
Bah, il y avait une panne sur Instagram il y a quelques mois. Et je me rappelle
une nuit, en gros, on n'a pas eu accès.
Non, mais ça m'a fait paniquer. Ouais. Parce que je me suis rendu compte à quel point on était dépendant de Twitter, d'Insta, Facebook, dans une moindre mesure, parce que maintenant c'est devenu un peu n'importe quoi. Mais oui, et comment en fait, ce truc-là, il fallait quand même être vigilant. Donc oui, on a besoin des réseaux sociaux. En même temps, quand il y en a un qui périclite, il y en a toujours un qui naît. Hein, donc ça marche. Mais oui, mais parce que ça donne des outils à l'auteur pour se faire sa promo lui-même, quoi.
Et tout à l'heure, tu parlais de Même Pas Mal, et on a reçu quelques auteurs édités chez Même Pas Mal. Et on sait qu'ils font des livres hyper variés, et qu'ils n'ont pas de modèle, qu'ils s'adaptent vachement aux besoins des auteurs. Mais est-ce que c'est ce genre de boîte d'édition assez modeste? Est-ce qu'ils prennent pas ça pour ils prennent pas ton projet pour une concurrence déloyale?
Bah non, puisque d'ailleurs, elle bosse avec nous, Chloé. Mais non, parce que nous, on vient pas leur voler leurs auteurs. Les auteurs qui viennent chez nous, d'autres maisons d'édition, c'est des auteurs que, franchement, c'est pas pour dire, mais qui ont été maltraités là où ils étaient, ou, comme Boulet, ou Guillaume Long, ou Marc Dubuisson, ont envie d'essayer une fois notre système parce que ça les amuse. Mais pour autant, ils quittent pas le circuit traditionnel. Les gens qui viennent chez nous et qui veulent plus retourner ailleurs, c'est des gens, je vous dis, qui étaient pas bien dans leur maison d'édition, parce que les gens qui sont bien, même mal payés, parce que des petites maisons d'édition, ben oui, Même Pas Mal, ou Misma, ou L'Employé du Mois, ou Popo, la Pastèque, je pourrais en citer 3 milliards, ils ont pas toujours les moyens de donner des milliards d'euros à leurs auteurs. Par contre, ils apportent à leurs auteurs un soutien, une communauté, un suivi qui est de grande qualité. Et donc les auteurs, c'est pas que l'argent qui mobilise les gens, bah ils restent avec leurs éditeurs parce qu'ils sont hyper bien et puis que artistiquement c'est ultra cohérent. Nous on est quand même, pour l'instant, c'est plutôt l'humour qui nous relie, mais moi je suis dans un truc pragmatique où on édite aussi des auteurs qu'on sait que ça va marcher avec notre système. Notre système, il est pas fait pour tous les auteurs. Un auteur même connu, je citerai Anne Simon, qui est connue et qui fait un travail extraordinaire, bah elle-même, elle nous a dit, bah moi je vois pas pourquoi je ferais un bouquin chez vous, je suis nulle en réseaux sociaux, et elle a peur que ça, du coup, ça marche pas, même si elle a un public. Mais moi, ce que je voudrais et ce que j'essaye de faire avec ces éditeurs là c'est de faire des partenariats avec eux. Mais pour l'instant, on en a pas encore fait, mais j'arrête pas de leur dire, le jour où vous avez un auteur que vous voyez qu'il a une présence sur les réseaux sociaux, pourquoi on ferait pas un partenariat? Je vous fais votre livre chez nous, et pendant 2 ans on garde les droits, et au bout de 2 ans on vous rend les droits du livre, et comme ça vous le continuez dans votre structure. Trouver un système comme ça, c'est parce que ça peut permettre aux auteurs de gagner beaucoup plus. Moi, je suis plus dans l'ouverture et dans l'idée même de créer des labels. Et là, en ce moment, on le dit beaucoup, mais s'il y a des gens qui veulent monter une maison d'édition mais qui n'ont pas les moyens, eh ben ils peuvent le faire sur le même modèle que nous. On les intègre dans la structure comme un label, ils montent leur maison d'édition, du coup ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent, mais il faut qu'ils respectent notre charte éthique, notre répartition des droits. Donc nous, on est vraiment dans l'ouverture. Moi, j'ai créé cette structure pour quelque part que les gens soient mieux payés pour ce qu'ils faisaient, et c'est vraiment ma première motivation, quoi. Donc l'idée, c'est pas de débaucher les gens ailleurs, c'est plutôt que les gens qui mériteraient, les gens qui sont beaucoup présents sur les réseaux sociaux, qui mériteraient de gagner plus et qui gagnent pas plus, chez nous, ils savent que tout le travail qu'ils font de réseau, de com, il est rémunéré, quoi.
Voilà, pour être très honnête, je trouve le projet génial et je pense vraiment que c'est un grand virage dans le business de la BD, en tout cas en France. Donc ça, pour ça, bravo. Mais quelle place ça laisse à ta carrière de dessinatrice?
Là, j'avoue que je suis un peu débordée.
Bah oui, c'est ça. Autre métier. Hein.
Bah oui, mais là, j'espère la finir dans les temps. Là, je finis une BD qui s'appelle Se rétablir, donc sur le rétablissement santé mentale, que je prépublie, parce que moi, je crois beaucoup au système, que je prépublie gratuitement sur les réseaux sociaux. Et qui après va être édité dans ma structure. Donc j'ai continué mon travail d'autrice. J'avoue que c'est difficile de concilier les deux tout le temps, parce que le travail de chef de PME, c'est un peu chronophage, on est vite sollicité. Et puis moi, ça me passionne, hein. Mais j'ai bon espoir que ça laisse, faut juste que je sois mieux organisée, mais je pense que c'est un mi-temps, quoi. Je pense que ça me laisse de l'espace de créativité, mais qu'il faut pas se disperser en mille choses, quoi. Mais voilà, oui, c'est vrai que c'est un autre métier. Mais en même temps, moi, après 20 ans de carrière, j'en avais un peu marre de faire que de la BD. En fait, j'avais envie d'être dans la... j'ai très envie de roter.
Vas-y.
Ris encore. Bon, c'est bon, personne n'a rien entendu.
On va évidemment l'enlever, mais c'est dommage.
Vous pouvez le laisser. Hein. Ouais, et en fait...
très envie, donc.
J'avais envie d'être dans la transmission un peu... Enfin, j'avais envie... je sais pas, de participer à un mieux-être de cette communauté d'auteurs de BD, d'autrices de BD que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est un super milieu. J'aime beaucoup les gens qui y sont, même si, bon, après, on a des affinités plus ou moins, mais je trouve que c'est des gens sympas, qui font des trucs cool, et je trouve ça dommage qu'on soit si maltraité depuis tellement d'années. Donc, je suis très contente de faire ça parce que j'ai l'impression de faire quelque chose pour les autres, et pour moi aussi, hein, par ricochet. Mais du coup, c'est pas du tout une frustration, c'est ça que je veux dire. Moi, si j'arrive à faire une BD par an et puis qu'elle est bien, je serais très contente, quoi. Je suis pas le genre de personne qui passe sa vie à produire.
Une BD par an, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup. Là, je pense que d'ailleurs, je ne vais pas en faire une par an. Moi, je suis quelqu'un quand même qui dessine très vite, qui bâcle. non, mais c'est vrai, s'il faut, je produis. J'ai un style qui est quand même très rapide. Après, je perds beaucoup de temps à, comme je disais, à procrastiner, à m'angoisser, à être bloqué. Mais quand je m'y mets, je vais quand même vite. Donc. Je pense que je ferai toujours de la BD en même temps et que le jour où ça me prendra trop de temps, je réfléchirai à prendre moins de temps sur la structure, quoi.
Là, tu as fait énormément de BD hétéroclites, ouais. Ta carrière. Tu penses que tu as encore combien de... Enfin, tu as des idées toujours d'avance ou c'est quand ça arrive, en fait?
J'ai toujours des idées d'avance. Mais ce qui est horrible, d'ailleurs, parce que quand je fais ma BD, j'ai déjà envie de faire la BD d'après.
Ouais.
Donc, je sais pas le jour... En plus, comme maintenant, je suis dans la BD du réel, ça demande moins de réflexion au niveau de l'imaginaire. Parce qu'en fait, je suis dans un sujet... Là, j'ai au moins deux ou trois trucs que j'aimerais faire. Je suis aussi sur un projet de long métrage. En prise de vue réelle, hein, pas de dessin animé, comme donc c'est complètement autre chose.
Scénariste
et j'espère réalisatrice. Ah. Mais c'est, on le saura, j'espère, d'ici 5 ans.
Parce on touche du bois.
C'est super long. Ouais. Mais je suis sur d'autres projets. En fait, moi, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Donc j'ai envie de faire plein de trucs. Je sais que des sujets, en fait, des trucs qui sont bouleversants et hyper intéressants, dans le réel, ils en passent tout le temps. Moi, j'ai parfois envie de refaire de la fiction, mais je me rends compte que, je sais pas, depuis que je fais de la BD documentaire, je pense que j'ai un fond contrarié de journaliste. Donc, en fait, j'adore parce que pour moi, ça remplit, ça coche plein de cases que j'avais pas cochées avec la BD de fiction, qui sont le lien aux autres, en fait, le fait d'être en contact avec les autres, de parler de sujets qui vont au-delà de soi, au-delà de son petit nombril. Et puis, la fiction, c'est super. Mais là, je sais pas, moi, avec la BD du réel, en tout cas, j'ai trouvé un truc qui me transporte et qui... Bah pareil, c'est même pas un plaisir de le faire, c'est une nécessité. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de plaisir à faire de la BD, à dessiner. C'est plutôt douloureux. Le plaisir que j'ai, c'est de raconter des histoires et surtout de donner vie à des et puis de donner la parole à des gens parfois qui l'ont pas forcément. Voilà, c'est ça qui me plaît. Donc ça, j'arrêterai pas. Je pense que ouais. Donc je peux pas dire, je vais prendre ma. Je pense pas qu'un auteur de BD prenne sa retraite ou une autrice de BD elle prenne sa retraite. Des fois, ils la prennent, mais en fait, ils continuent de faire des trucs. Je pense que Florence Sestac, par exemple, qui est à la retraite, je pense qu'elle continue de faire de la BD. Je pense que c'est le genre de profession qu'on fait jusqu'à ce qu'on soit plus capable de tenir un stylo, quoi. Donc, après, j'espère juste que je vais pas trop me dégrader. Parce qu'en général, parfois, les auteurs, au bout d'un moment, on est moins bon qu'avant. On baisse un peu. J'aimerais bien pouvoir m'en rendre compte, en tout cas, faire des sujets où ça se...
On te le dira, t'inquiète, pas du tout.
on le dit jamais, parce que les auteurs, après, quand ils deviennent connus, personne leur dit qu'ils commencent à faire de la merde. Voilà. Non, mais je pense que c'est vraiment un boulot qu'on n'arrête jamais, en fait. On arrête quand on meurt, quoi.
Et là, tu disais, t'avais un adjectif genre bouleversant, des choses bouleversantes qui se passent. Comment tu sélectionnes les sujets pour de vrai, d'une BD? À quel moment tu dis, ok, là, j'ai vraiment la matière pour faire une bande dessinée?
En fait, je pense que c'est pas moi qui sélectionne les projets, c'est les projets qui me sélectionnent.
Ok.
Ouais, alors là, je trouve que j'ai hyper bien répondu. par exemple, c'est vraiment pareil, c'est des trucs qui... Par exemple, le truc de mes parents d'HP, c'est parce que depuis que j'étais petite, c'était en moi. En fait, c'est comme si c'était en moi. C'est un peu le nombre d'ovules qu'on a quand on est une femme jusqu'à la ménopause. Je pense que j'ai un nombre de projets en moi et qu'il faut qu'ils sortent à des moments. Mais par exemple, La Jungle de Calais, c'est vraiment venu ce que je voyais à la télé, puis ça vient d'abord d'un affect. C'est pas le bon sujet. Le truc de La Jungle de Calais, on y est arrivé avec la sociologue et pour voir. Et quand on a vu qu'on nous a dit que ça allait être détruit 6 mois plus tard, on s'est dit oh, il faut témoigner. En fait, il y a ce truc de témoigner aussi. Donc les sujets, ouais, l'autre fois c'était une commande, on m'a demandé d'aller au Niger pour aller au HCR, donc au commissariat des réfugiés, pour interroger des migrants. Et finalement, moi j'ai choisi d'interroger des migrants LGBT, donc qui avaient dû fuir, notamment le Cameroun, parce qu'ils étaient persécutés et menacés de mort là-bas. Et du coup, là, j'ai fait plein d'interviews, j'en ai rien fait, mais j'arrête pas de me dire, ça c'est incroyable, le sujet il est incroyable, moi ça me touche. Donc les sujets, là par exemple je vais peut-être me retrouver à prendre des cours d'italien avec des réfugiées ukrainiennes en Italie, là parce que je suis à Naples en ce moment, et je suis en train de me dire, je sais pas, selon les rencontres que je fais, mais peut-être qu'il y aura rien, mais peut-être que ça va être le moment. En fait, il y a aussi ce genre de sujet, c'est est-ce que c'est le moment de le raconter ou pas. La Jungle de Calais, il y avait une urgence à raconter. Là je fais quelque chose donc sur le rétablissement santé mentale, c'est-à-dire les 2/3 des personnes qui sont atteintes de troubles psy, elles s'en sortent. et ben on n'en entend pas parler. Donc moi, je fais témoigner des gens qui s'en sont sortis ou qui arrivent, en tout cas qui sont dans une démarche de rétablissement. Et donc, je parle d'eux et je trouve qu'il y avait une urgence à le faire et que c'était hyper important de le faire. En fait, aujourd'hui, je pense qu'en vieillissant, je commence de plus en plus à me dire, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un projet nécessaire? Est-ce que c'est important que ce projet existe ou pas? Et là, en ce moment, bah voilà, les sujets que je choisis, les projets que je choisis, à part une année exemplaire qui était plus un exercice pour pouvoir m'auto-éditer, mais qui est devenu quand même un projet que j'ai trouvé intéressant au final, bah c'est, est-ce que ce projet-là, il est important? Est-ce que il va compter? Est-ce que c'est important de le dire? Est-ce que c'est important que ça existe? Donc ça, c'est ce qui me motive. Mais je réfléchis pas genre ah le bon sujet ça va être bien porteur.
Non, c'est juste je me disais parce que souvent tu fais des BD assez longues et tout.
Ouais.
À quel moment tu sens que c'est un sujet sur lequel tu auras plein de choses à raconter en fait?
Ben tout de suite, je pense que c'est instantané, c'est instantané. En fait, tu sens quand un sujet
bah,
la jungle de Calais, rien que d'y aller, de mettre un pied dedans, on sentait qu'il y avait un milliard de trucs à raconter. La santé mentale, enfin c'est quand même des sujets hyper vastes. Tu le sens qu'en fait quand les gens te confient leur histoire et que tu la visualises et tu vois le truc, je sais pas, tu le sens quoi.
Ouais.
Après, je peux pas te dire que j'ai une idée de ce que je vais raconter sur 10 ans, hein, mais
non, bien sûr, mais
en fait c'est un truc de journaliste. D'un coup, j'entends un récit, puis ça me touche, puis ça me parle, puis je me dis oh là là, j'ai envie de le mettre en image parce que je l'imagine. Puis du coup, je le fais. Et même après, je regrette des fois de m'être engagée dans des projets où je dis voilà, parce qu'une fois que j'y suis, bah, c'est quand même laborieux, surtout la BD du Rel. Parfois, c'est triste. J'ai fait un burn-out après La Jungle de Calais, par exemple. Parce qu'en fait, ça m'a trop émotionnellement, je m'en suis pas rendu compte parce que je suis le genre de personne qui réagit pas tout de suite. C'est-à-dire, je me prends des trucs, et moi, je sens rien. J'ai l'impression que tout va bien. Et en plus, comme je fais ma BD, je me dis bah, ça sort en BD. Et puis, genre, deux mois après, je fais une dépression. Je fais genre, bah là, en général, moi, comme je suis épileptique, je fais une crise d'épilepsie horrible qui me met pendant un mois hyper mal, je deviens amnésique. Et en fait, c'est le contre-coup de trop de chocs émotionnels, mais je les ressens pas. Donc c'est le problème de ce genre de boulot, c'est que parfois je pense qu'on est, on s'imprègne parce que quand on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, on devient un petit peu l'autre. C'est-à-dire on est obligé de disparaître. Moi c'est ce que je fais, je disparais en tant que personne et je sais que la personne elle rentre en moi et elle raconte l'histoire, un peu chamanique comme ouais. Ça, mais j'ai vraiment cette sensation-là que moi tout ce que je pense, ça disparaît. Et je me retrouve que au service. Il y a une seule partie de mon cerveau qui est allumée, c'est la partie qui est au service de l'autre pour retranscrire son récit de la manière la plus fidèle, pas forcément dans les mots, mais dans l'émotion et dans ce qu'il veut dire. Et donc, tout s'éteint à part ça. Je suis plus que ça. Mais en fait, le reste, en vrai, ça nous atteint. C'est-à-dire que moi, par exemple, bosser dans la santé mentale, là, depuis des mois et des mois et des mois, en fait, je sens que ça me mine. Mais c'est pernicieux, quoi. On s'en rend compte après, quand on voit que d'un coup on est hyper déprimé, on se dit ah ouais, peut-être qu'il faudrait que je change un peu de sujet. Mais voilà, après, c'est, par exemple, la santé mentale, là, moi je trouve ça génial. Je trouve ça hyper. Et puis, il y a un retour public avec les réseaux sociaux que moi j'adore, où au quotidien, des gens t'écrivent pour te dire ça me touche, ça touche mon fils, ça touche ma sœur, je suis concernée, ça fait du bien de lire ça. En fait, quand on fait quelque chose et que toute la journée, il y a des gens qui vous disent que vous êtes dans le juste, bah parce que c'est aussi hyper rassurant quoi. On se dit ah oui, là avec mon travail là je fais du bien aux gens, ça est en train d'apporter quelque chose. Donc une petite pierre hein, je suis pas en train de faire la BD du siècle, mais ce que je fais là au moment où je le fais, c'est utile.
Et tu disais que dessiner c'était douloureux, c'est récent ça, enfin...
Ah non, ça a toujours été, en fait je sais pas, quand je dessine ça me met dans un état de... Je pense que je suis trop concentrée, parce que comme donc je procrastine beaucoup, quand je suis dedans, par contre, je donne tout, quoi. Et ça me met, je sais pas, j'ai toujours peur de pas y arriver, de pas être à l'heure. D'abord, c'est un stress en permanence. Ensuite, moi, j'ai pas un gros plaisir de dessin, parce que je suis pas le genre à avoir toujours mon carnet, à dessiner là. Genre, je vous aurais croqué, là, comme ça. En fait, moi, c'est toujours un peu, il va falloir que je dessine. C'est pas un plaisir. Et puis, c'est douloureux, je sais pas, d'articuler les histoires et un côté hyper pénible. Mais après, c'est un grand plaisir de l'avoir fait. En fait, c'est comme si l'action elle-même était douloureuse, mais tout le reste est super.
Le fameux syndrome Philippe Vallette, dont on parle à chaque fois.
Ah, c'est quoi le syndrome Philippe Vallette ?
C'est un des tout premiers podcasts qu'on a fait, et il disait que très souvent, quand il arrivait au milieu de son projet, et qu'il avait genre ses post-it partout dans sa chambre, et qu'il disait genre, bon, j'arrête en fait.
Ouais.
Je finirai jamais ce projet, c'est plus possible.
Pour Jean Do, il voulait même rendre l'avance, il a dit non mais... J'ai fait une connerie, c'est chiant.
Moi j'ai déjà fait ça, et j'arrive jamais à finir mes albums. Là par exemple, c'est la fin, et j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. C'est-à-dire que je me dis, il me reste deux histoires à traiter. Enfin, il me restait trois, mais je pense que j'aurais même pas le temps d'en faire trois, donc je vais en faire deux. Je trouve que j'ai déjà fait pas mal de pages. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à terminer. Je sais pas pourquoi, c'est une angoisse. Je pense que c'est un truc qu'on contrôle pas, là, de finir, la finir, la mort. Je sais pas, il y a une peur de terminer, et moi je sais que c'est vachement ça. Et des fois, il y a des projets que j'ai arrêtés en plein milieu et que je dois toujours refaire, hein, et que j'arrive pas réussi à faire parce que j'ai bloqué. D'un coup, et ça, c'est douloureux. Voilà, des fois, je me dis, oh, ça doit être pratique quand même d'arriver le matin, de pas avoir des milliards de trucs en retard, d'être salarié Et à la fois, j'ai jamais été salarié, donc je sais pas ce que c'est. Mais ouais, pour moi, c'est une douleur. J'adorerais avoir un plaisir de dessin, mais j'ai tellement une espèce de frénésie d'efficacité que je pense que si ça tue tout plaisir de dessin, parce que moi, je veux que ça aille vite, je veux que ce soit efficace, je veux qu'il y en ait plein. Et du coup, bah, je pense que ouais, des fois, je devrais passer plutôt une journée tranquille comme ça sur mon œuvre. Mais
ton chevalet.
Non, mais je pense que c'est juste pas ma façon de faire, quoi. Mais donc ouais, c'est douloureux. Puis je sais pas, des fois, je suis traversée par des idées hyper négatives quand je dessine. C'est pas un état où je suis heureuse. Je sais pas pourquoi. Je suis dans ce que je fais et en même temps, je suis stressée, quoi. Mais je suis pas dans le genre, oh, j'adore. Oh, un trait noir est sorti de mon stylo, c'est beau. Le papier, le grain du papier. Mais je sais que je peux l'avoir, ce truc-là, mais c'est très rare.
Et pour être dans ce cas-là, t'écris pas pour d'autres...
J'ai écrit pour d'autres, mais en fait...
Pourquoi t'as besoin d'être dessiné, du coup, surtout ?
Parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à raconter autrement qu'en découpant. Et c'est le plus douloureux, c'est ça. C'est vraiment le découpage. Il faut tout agencer et tout. Une fois que ça s'est fait, bah, il reste le dessin. Alors le dessin, des fois, c'est un peu casse-bonbon, mais toute cette étape-là, en fait, c'est le plus important. Et ça, j'arrive pas... Bah parce que quelque part, j'ai envie de le faire tout, de faire tout moi-même aussi.
Bah oui, on voit bien.
Oui, après, j'écris pour d'autres, mais j'ai pas du tout, ça marche pas du tout très très bien les trucs quand je fais pour les autres. Et parce que j'aime. Parce que je dis, une fois que j'ai fait tout le découpage et que toute l'histoire est faite, il y a quand même trois quarts du boulot qui est terminé, quoi. Des fois, j'ai eu l'impression, je me suis dit, bon, je l'ai fait faire avec d'autres, avec qui d'ailleurs c'était super de l'avoir fait. Mais je me dis, dans le fond, on se dit, bah j'aurais pu aller au bout. Et je trouve que le truc dur, c'est vraiment de. Ouais, d'aller au bout, quoi. Et de toujours recommencer, et puis des fois que t'as, y a plus de sous, et puis. Mais je sais que mon cas n'est pas. Il y a plein de gens comme moi, mais il y a aussi plein de gens qui sont pas du tout comme moi et qui s'éclatent. Et là, je suis très envieuse. Je me dis, ah, j'aimerais moi avoir ce truc de pur plaisir. Et je pense qu'aussi, c'est lié beaucoup aussi au fait d'être épileptique. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, quand je dessine trop, que je travaille trop, je commence à avoir des alertes épileptiques. Et du coup, je pense que j'ai une espèce d'épée de Damoclès.
Ah,
qui
oui.
fait que, par exemple, les journées où je travaille beaucoup, je suis très épileptique. Alors, ça veut pas dire que je fais des crises. Mais malgré tout, cette pathologie, hein,
Tu sais que ça peut arriver.
Ouais, cette pathologie, dont j'ai pas envie de m'étaler 100 milliards d'années, hein. C'est pas, je vis avec et je m'en sors et ça va. Mais elle fait que, bah, dès que je suis trop fatiguée, que j'ai trop travaillé, les jours où je bosse beaucoup, ben, bah, je rentre le soir, je suis comme ça, je fais hyper gaffe, je m'allonge dans le noir pendant une heure, je me sens pas bien. Et je pense que c'est aussi maintenant associé l'excès de travail. Donc, j'évite l'excès de travail. Mais les jours où je bosse pas, bah, par exemple, je suis pas épileptique du tout. Donc, c'est vrai qu'en plus, maintenant, comme c'est une épilepsie de la lecture, c'est lié à ça, je pense qu'il y a ce truc-là, mais pas que, parce que même avant d'être épileptique, j'étais déjà comme ça. C'est-à-dire que c'était très douloureux de produire.
D'accord. C'est pour ça que tu penses que quand t'étais très jeune, t'arrivais pas au bout de...
Non, bah parce que c'était trop répétitif, quoi. Mais parce qu'aussi, faire une BD, mais personne... Moi, tous les gens que je connais, ils commençaient des milliards de BD qui finissaient pas, parce que c'est tellement long. C'est quand même méga long, hein, une BD.
Ouais, faut avoir une patience et une constance qui est folle, quand même.
Ouais.
Surtout pour que les lecteurs consomment ça très très rapidement.
Ouais. Hein. Après, c'est très vite.
Il y a un vrai décalage. Hein.
Ouais. C'est pour ça que j'essaie de dessiner le plus vite possible pour que faut pas trop penser à ça. Mais ouais, et puis je dois avoir ça en moi quand même. Enfin, je veux dire, j'ai toujours voulu faire de la BD et c'est ce que je fais. Donc quelque part, je dois avoir quand même un petit côté autiste Asperger qui fait que je suis capable de faire 8 milliards de fois le même personnage, comme on est tous comme ça dans la BD. Mais c'est contrarié par un côté où moi j'aime bien voir du monde, j'aime bosser en équipe. J'aime la collectivité, j'aime le dialogue, et que du coup, ça va à l'opposé de faire de la BD, c'est vraiment quand même un truc de repli sur soi. À un moment donné, on s'enferme dans son monde, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu angoissant. Après, je pourrais m'allonger sur la table et continuer de vous expliquer.
Et ce métier d'autrice, est-ce qu'il est à la hauteur de ce que t'espérais quand t'avais 4 ans en découvrant Mafalda?
Ouais, franchement, quand j'ai vu... en plus, je crois bien que c'était chez Glénat Mafalda en France.
Ah.
Donc, je dois dire que, oui, je pensais pas... Franchement, on m'aurait dit, mais oui, Lisa, tu vas y arriver. Puis en plus, tu vas avoir plein d'albums chez Glénat, la même format que Mafalda.
Tu vas éditer des gens.
Tu vas éditer des gens. Non, je suis très contente de là où j'en suis aujourd'hui. Parfois, j'avoue, je suis jalouse de mes consoeurs et de mes confrères qui vendent 200 000 albums de leur production, parce que forcément, ça fait une sécurité financière. Alors, on dirait que je parle que d'argent, mais c'est parce que c'est toujours les gens qui n'en ont pas, qui en parlent beaucoup. Non, mais c'est que ça fait un stress. En fait, le fait d'être instable financièrement, et c'est pour ça que j'ai créé cette structure aussi, eh ben, ça crée un stress dans la vie. Quand on n'a pas la sécurité financière, eh ben, on n'est pas hyper bien. On est toujours un peu là, le cul entre deux chaises. On n'est pas bien. Et c'est vrai que, ben, être très bien payé pour un projet, ça fait qu'on est rentre dans un truc de perte, à mon avis. Enfin, c'est même sûr. Hein. C'est plus confortable parce que du coup, on peut vraiment envisager le prochain projet avec sérénité, éventuellement se créer un petit capital quand, comme moi, on vient d'une famille qui n'en a pas. Et c'est vrai que parfois, voilà, moi, évidemment, j'aimerais... Mais là où je veux pas être capricieuse, j'ai quand même eu la chance d'être édité chez des gros éditeurs qui m'ont payé correctement et d'avoir toute ma vie pu vivre quasiment uniquement de la BD. Et donc je suis aussi consciente de la chance énorme que j'ai.
Ouais, hein. C'est rare.
Moi je me plains pas du tout. Je dis juste que parfois, évidemment, j'aimerais avoir un gros succès pour pouvoir genre me. En fait, ce qui manque là, c'est de se poser, de dire, je prends 2 mois de vacances, voire 3 mois. Et je réfléchis. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais pu faire de toute ma vie. Moi, j'ai pris 10 jours de vacances en 2 ans. Après, j'ai des horaires un peu, genre, des fois, je bosse pas l'après-midi ou il y a un jour, je vais pas bosser. Mais par contre, j'ai vraiment pris 10 jours de vacances en 2 ans. Et ça, mais ça, c'est ma faute aussi. Et ça, je me dis, voilà, j'aimerais bien ne pas être obligée de bosser comme un chien tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Tu décroches jamais vraiment.
Je décroche jamais. Jamais. Mais parce que, c'est aussi parce que je le veux bien, mais aussi parce que on est dans un truc où il faut tout le temps produire, où il y a tout le temps quelqu'un qui nous demande quelque chose et où on a peur que si on ne réponde pas à telle personne après, ben du coup, on perde de la notoriété. Enfin, on court après quelque chose qui est quand même. Et qui est un peu vain. Moi, je pense aussi que c'est ma faute aussi. Il faut que j'arrive à relativiser l'importance. Mais c'est vite fait. Je pense que je suis pas la seule en BD qui... Parce que c'est quand même des métiers passion, c'est vrai. Et donc, en fait, il n'y a pas de différence entre la BD et soi-même. Son métier et soi, c'est une seule et même chose. Alors parfois, moi, par exemple, je bosse jamais le week-end. Donc on pourrait dire, ah ben Lisa, elle fait ça. Mais en vrai, à part que je bosse jamais le week-end, je ne pars jamais en vacances. Donc finalement...
Non mais c'est pas incroyable de pas bosser le week-end.
Oui, c'est pas incroyable, mais bon, parce que je connais des gens qui bossent le week-end aussi.
Oui, bien sûr.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait tellement partie de nous je pense que souvent on fusionne quoi avec notre métier et du coup c'est très difficile de compartimenter. C'est plus facile quand je pense quand on a une famille, des enfants. Mais c'est quand même quelque chose qui est pas évident et qui peut être très destructeur au bout d'un moment parce que d'ailleurs beaucoup de à un moment donné Lewis Trondheim il avait fait une BD sur tous les auteurs de BD qui virent mal, qui finissent mal et qui se suicident. Mais je pense qu'au bout d'un moment c'est quand même compliqué que ce soit autant imbriqué à notre personnalité.
Bien sûr.
Donc en fait après c'est même plus une notion de que ça nous plaise ou pas, c'est que ça fait partie de nous. Moi j'ai l'impression qu'en fait la BD c'est juste un autre organe, enfin que ça fait partie de moi quoi, mais je pourrais arrêter, mais dans ce cas là faudrait que je fasse un autre truc créatif. Mais ouais c'est au-delà de... Quand j'étais étudiante, enfin en fait j'ai revu une ancienne étudiante qui était étudiante dans la même école que moi et qui un jour m'a dit oui vous, alors elle parlait de Boulet puis d'autres gens, elle disait on voyait que vous étiez, que c'était une nécessité de produire et que vous étiez habité par ce que vous faisiez. Pourtant à l'époque j'avais pas l'impression de l'être et je me suis dit mais elle a raison parce qu'elle dit moi par contre en fait bah, je changeais de voie, maintenant elle faisait des cadres, elle rénovait des trucs, elle était très contente. Mais elle dit moi j'étais pas habitée comme ça par le dessin comme vous et pourtant moi j'avais pas l'impression de l'être mais en fait si, ça m'habitait, j'étais... Je me voyais pas faire autre chose. Enfin, c'était en moi, quoi. C'était et donc voilà. Donc des fois, je pense qu'il faut faire un petit pas de côté pour prendre du recul, mais
ouais, c'est toujours difficile en vrai quand t'es autant immergé dans dans le sujet, quoi.
Bah oui, puis moi, tous mes amis, bah après c'est toujours pareil. Hein.
Ouais.
Bah, mes amis, ils font beaucoup partie du même milieu. Bah ouais. Après, on oui, et puis en même temps, c'est une chance. C'est-à-dire que je n'arrive même pas à imaginer, et pourtant c'est le cas de la plupart des gens, de me lever le matin et d'aller bosser en me faisant chier, en sachant d'avance que je vais me faire chier toute la journée.
Bah
quoi.
Ouais, pour 80% des gens, je pense. Oui. 70. Le boulot, c'est juste un endroit où tu vas, dans lequel des fois t'as un kiff, mais ouais. Pas toute la journée.
Bah oui, et puis, mais ceci dit, c'est ce qui fait que c'est plus facile de compartimenter, parce qu'on se dit, bon, là, je suis obligé, je gagne ma croûte, j'essaie de prendre le meilleur du truc, enfin, de gérer pour pas que ce soit insupportable.
Ouais.
Et ensuite, ma vraie vie, elle commence après le boulot, avant le boulot, pendant les vacances et pendant les week-ends.
Carrément.
Et le reste du temps, bah, c'est soit pas trop désagréable, voire sympa. Mais nous, c'est vrai que ce genre de boulot, on est en symbiose avec le boulot pour le meilleur et pour le pire, quoi.
Ouais.
Et je pense que sincèrement que si j'avais pas fait ça, je serais peut-être même pas là pour vous en parler. Je pense que quelque part ça sauve. Je pense que à un moment donné, il y avait un étudiant qui avait fait, c'était Marion Montaigne qui m'en avait parlé. Ça m'avait bien fait rire.
Qui répond pas à nos invitations.
Ouais,
non mais c'est sur Instagram, elle doit recevoir beaucoup de messages.
Ah, oui, ouais, puis Marion elle est hyper sollicitée. Mais donc elle m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une enquête pour voir à quel point en gros, enfin qui avait fait une enquête de psy, parce que c'était quelqu'un qui était en master de psycho, je sais plus, hein, et qui avait conclu que les auteurs de BD, en fait pour être créatifs, il fallait quelque part surfer avec la maladie psy, c'est-à-dire rentrer dans une sorte de schizophrénie et en revenir. Pour pouvoir créer. Et que l'imagination et la créativité, c'était très proche, en fait, de la folie. Mais qu'après, c'était, voilà, j'arrive à y aller, j'arrive à en revenir pour en sortir quelque chose de cohérent. Et moi, je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire que je pense que c'est dans ma famille, donc il y a beaucoup de personnes concernées par les troubles psy. Et je pense sincèrement que si j'avais pas été, pu exprimer ma créativité par le biais de la BD, je serais peut-être moi aussi avec des troubles psy très importants. Et je pense que quelque part, vraiment, ça m'a sauvé. Ouais, vraiment, je pense que ça, le fait de pouvoir sublimer cette créativité, sublimer cette espèce d'excès de pensée, ça m'a vraiment, ça m'a sauvée. Je pense que sans ça, si j'avais pas pu exprimer ma créativité quelque part, peut-être que j'aurais été extrêmement mal dans ma peau, quoi. Mais bon, j'en sais rien parce que j'ai pas d'avatar dans une autre dimension qui pourrait
pas qu'on sache, en tout cas
je pourrais surveiller pour voir comment il va.
Bon, Lisa Mandel, est-ce qu'on a parlé d'assez de bandes dessinées?
Oh ben,
parce que t'avais une liste très longue, hein, sur WhatsApp.
Ouais, mais ben oui. Après,
moi je pense, hein, on a fait une belle émission.
J'ai pas parlé des dernières, mais parce qu'il y en a plein qui m'ont plu, puis je saurais pas laquelle privilégier.
C'était une belle émission.
Ouais, ça va.
Grandiose.
Vous allez en ressortir grandi.
Ouais.
Johan, t'as aimé?
Oui, c'était vraiment très bien.
Bah, j'imagine que vous allez pas dire que c'était nul.
C'est vrai qu'on le dit jamais, mais des fois on le pense, là on le pense pas. Non, c'est faux. Non, c'est toujours très bien.
Oui, mais là c'était vraiment bien. Non, vraiment, c'était très intéressant.
Et ben,
c'était comment Angoulême cette année?
C'était comment? Du coup, c'était génial. J'ai eu un grand prix alors que j'étais même pas sélectionné. C'est le grand prix de la carrière la plus aléatoire. Et donc, on me l'a remis, je m'y attendais pas. Bah non, c'était super. Ouais, c'est ça. Après, on m'a fait une piscine de champagne.
Il y a Zep, les piscines de champagne.
Ouais, c'est toujours super. Moi, j'adore. À chaque fois qu'on m'en fait une, je suis contente. Ouais. Je bois un peu la tasse exprès. Bah non, mais on va. Donc, ce sera passé, mais nous, on va le découvrir ça ensemble. Du coup.
Je suis un peu excité, moi.
Ouais. Mais c'est bien. Il faut surtout aller au Mercure le samedi soir pour boire avec tout.
Alors,
le monde.
C'est vraiment con parce que je le redis, hein, on l'a dit à Anne-Simon, mais c'est l'anniversaire de ma meuf samedi, donc on doit rentrer samedi.
Ça, c'est vraiment dommage.
Oui, mais qu'est-ce que je peux y faire, hein?
Quelle erreur. Tu viens de venir.
Bah non, mais c'est pas un cadeau. Je veux dire, viens à Angoulême voir des auteurs et des autrices de BD en train de se bourrer la gueule à l'hôtel Mercure. Ouais, elle va me dire, frère,
c'est que des gens.
Tu veux pas m'acheter une bague plutôt? Non, c'est pas son genre, mais quand même.
Bah, en plus, c'est pas que les auteurs qui sont bourrés, c'est tout le monde. Ça qui est drôle, les éditeurs, les attachés de presse.
Lisa, je ne bois plus d'alcool.
Alors non, ça, tu te serais ennuyé.
Ouais.
Parce qu'il faut être aussi un peu bourré, sinon je pense que c'est quand même un peu.
Après, Aurélien, il boit pour moi.
Oui, bon. Pas trop non plus. Hein.
Ouais, c'est vrai,
suffit.
En plus.
Je prends ma part et c'est bon. Hein.
Bon, en tout cas, on était hyper contents de te recevoir. C'était génial. Aurélien, on se voit demain dans le TGV pour Angoulême.
C'est vrai.
Johan, tu restes à Paris. Bon, on se voit demain, non, vendredi.
Bah non, vendredi, ouais, moi je serai là. Vendredi.
Tu feras pas comme si tu nous connaissais pas. Hein.
Je vous sauterai au cou, ouais. D'une manière qui sera même un peu gênante. Peut-être.
Ah, j'ai hâte d'avoir ça, parce que je vais faire un petit vlog, donc comme ça sera filmé.
Ah. Voilà, et là j'ai hyper envie de refaire de la ASMR.
Alors, on va se quitter sur la ASMR de Lisa.
Je vous souhaite une bonne soirée. On a beaucoup aimé cette séance et maintenant on va se détendre et respirer. Donc là, je vous masse le crâne et j'ai vraiment trouvé ça tip top. Au revoir à tous.